municipale 2020,
édition spéciale sur Europe 1.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre grand journal du soir à la veille de ces municipales. On vous propose tous les lundis jusqu'au scrutin un rendez-vous en région, au plus près des citoyens et des sujets qui vous concernent. Après la laïcité à Chanteloup-les-Vignes, le pouvoir d'achat à Mourinx, près de Pau, ce soir, Europe 1 a posé ses valises à Longouette, en Ille-et-Vilaine. Cette commune de 600 âmes s'est faite remarquer quand son maire, Daniel Cueff, a signé un arrêté anti-pesticides, c'était l'an dernier, retoqué depuis, mais aussi pour être une sorte de laboratoire 100% écolo. Ici, il va donc être question pendant 2 heures d'agriculture, de l'épineux problème des pesticides, du bien-être animal, du bien manger et bien sûr des énergies renouvelables. Qu'attendent aujourd'hui les agriculteurs dont le malaise est grandissant? Comment aller vers un modèle d'élevage et d'abattage respectueux? Demain, peut-être une France 100% bio. Ce sont ces agriculteurs et habitants de Longouette qui s'installent ce soir dans le studio Europe 1, installé dans une ferme bio. La ferme de l'Aune qui nous a ouvert ses portes jusqu'à 20h et on vous remercie pour nous accompagner. Également, pendant ces 2 heures, notre invité expert, le sociologue Jean Viard. Bonsoir à vous, bienvenue. Merci d'être là, votre dernier livre, Le Sacre de la Terre, aux éditions de l'Aube. Merci à vous, on verra ensemble régulièrement ce qui se joue à Longouette et qui résonne un peu partout dans nos territoires. On s'installe ici pendant 2 heures, tout de suite le journal, à Paris, avec vous, Sébastien Krebs.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Notre objectif, c'est de ralentir la circulation d'un virus qui est présent sur le territoire national.
Ralentir l'épidémie quand il n'est plus possible de l'empêcher. Le virus Covid-19 est une nouvelle victime ce soir dans l'Oise et les mesures de précaution ont de plus en plus de conséquences sur notre quotidien. Plusieurs milliers d'écoliers n'ont pas pu retourner en classe aujourd'hui.
Nous avions évidemment prévu de mettre en place à la fois des scénarios qui leur permettent effectivement de travailler via les ressources pédagogiques à distance.
L'école à distance dans le Morbihan, et si cette mesure devait s'étendre, comment on fait? On verra très concrètement comment les choses peuvent s'organiser. Au niveau politique, Emmanuel Macron annule tous ses déplacements dans les prochains jours. Dans l'actualité aussi, cette nouvelle crise migratoire, le président turc menace ouvertement l'Europe. Des millions de migrants se dirigeront bientôt vers l'Europe, dit Recep Tayyip Erdogan, qui a ouvert ses frontières. Chantage inacceptable, répond Bruxelles. Et puis Alexis Pinturo, peut-il croire au globe de cristal? Il reprend la tête de la Coupe du Monde de ski. La Bourse de Paris reprend timidement en hausse de 0,44% à 5 333 points. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
La tendance météo pour demain.
Alors il faut savoir qu'actuellement, Météo France vient de placer 2 départements en vigilance orange. La Haute-Corse pour inondations et crues, les Hautes-Alpes pour avalanches. Demain, c'est une journée qui s'annonce agitée à l'ouest, calme à l'est. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Le Covid-19 a donc fait une nouvelle victime. 3e décès en France, le 2e dans ce département de l'Oise, toujours principal foyer français. Rejoignons tout de suite notre envoyé spécial Nicolas Feldman à Compiègne. Nicolas, que sait-on ce soir de cette personne qui est décédée?
Eh bien, il s'agit d'une femme âgée, elle est décédée hier, une femme qui souffrait de différentes pathologies et ce n'est qu'après sa mort que les médecins ont diagnostiqué ce Covid-19. Le maire de Compiègne, Philippe Marigny, également président du conseil de surveillance du centre hospitalier, là où est décédée cette femme, vient de le confirmer dans une conférence de presse. Cette personne était donc originaire de Crépy-en-Valois. C'est dans cette commune qu'exerçait une autre victime du coronavirus, le professeur qui a succombé à Paris cette semaine du côté de l'hôpital de Compiègne. Ce que je peux vous dire, c'est que des tests ont été menés et résultat, 26 cas de Covid-19 avérés ou suspects sont recensés. Le service de réanimation de l'hôpital se dit fonctionnel, prêt à répondre à tous les nouveaux cas. Je vous rappelle, à ce jour, la France compte plus de 130 personnes contaminées par ce Covid-19. Et comme tous les jours, le ministre de la Santé doit faire un point ce soir sur l'avancée du virus.
Les précisions de Nicolas Feldman en direct depuis Compiègne, dans l'Oise, où des consultations médicales ont par ailleurs débuté aujourd'hui dans le collège où travaillait l'enseignant qui est décédé la semaine dernière. On apprend aussi que 4 résidents du service de gériatrie de l'hôpital de Crépy-en-Valois ont été diagnostiqués positifs.
Alors, on ne parle pas encore de stade épidémique en France, mais Sébastien, clairement, le virus est de plus en plus présent.
Oui, avec des conséquences très concrètes désormais sur notre vie quotidienne. Tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes en milieu confiné sont désormais interdits. Ça concerne les concerts ou encore le Salon du Livre qui a été annulé. Et localement, des mesures encore plus drastiques sont prises dans les nouveaux foyers. C'est le cas dans le Morbihan où vous vous trouvez, Charles Guyard. Bonsoir.
Bonsoir, Sébastien.
13 cas détectés là-bas. Du coup, la rentrée des classes n'a pas pu avoir lieu dans 3 communes.
1717 élèves exactement habitant Carnac, Crac et Auré, les trois communes où plus d'une dizaine de cas de coronavirus ont été détectés. Mais pas question, vous l'imaginez bien, de rester les bras croisés pendant deux semaines. Pour eux, le rectorat de Rennes a tout prévu, comme l'explique son directeur Emmanuel Etis.
Nous avions évidemment prévu cela, de mettre en place à la fois des scénarios pédagogiques qui leur permettent effectivement de travailler, soit via le CNED, soit via aussi les ressources pédagogiques à distance que nous avons dans notre académie, parce que pour nous, la continuité pédagogique, c'est avant tout garder le lien avec nos élèves.
Des élèves, vous l'avez compris, qui ne sont donc pas en vacances prolongées. Mais des vacances moins chamboulées, c'est ce qu'aurait en revanche apprécié Julie. Elle est arrivée hier de la Charente-Maritime, passée quelques jours du côté de Carnac avec sa fille de 7 ans. Et forcément, eh bien, il va falloir trouver des occupations.
Moi, j'avais fait un programme. Je devais aller au musée de la préhistoire aujourd'hui, donc il reste fermé. Ensuite, demain, je vais me promener à Quiberon, mais pas de visite. Et en plus, j'avais annulé ma semaine de vacances au ski en Auvergne parce que la station est fermée, parce qu'il n'y a pas de neige.
Jusqu'au 14 mars, les rassemblements de personnes sont interdits et cela concerne les musées donc, mais aussi les rencontres sportives, les cinémas, les marchés en plein air. Mais paradoxalement, les grandes surfaces sont exclues de ce dispositif. En revanche, les réunions publiques liées aux élections municipales sont elles aussi frappées d'interdiction.
Voilà notre vie quotidienne qui change. Charles Guyard dans le Morbihan. Bonsoir Victor Delande.
Bonsoir.
On entendait dans ce reportage de Charles Guyard que des enfants donc, doivent rester à la maison. Dans l'Oise aussi, la rentrée a été repoussée pour un peu plus de 20 000 élèves. Si ces mesures devaient s'étendre, comment on fait en clair pour faire école à la maison?
Alors, dans ce dispositif baptisé « Ma classe à la maison » déployé par le CNED, deux possibilités. La première pour les élèves dont l'école est fermée, c'est de pouvoir avancer dans les programmes scolaires. Environ 3 ou 4 heures d'activité sont proposées chaque jour aux élèves dans des matières différentes, français, mathématiques, histoire, géographie. Et puis la deuxième possibilité, ce sont ces fameuses classes virtuelles. Un professeur dialogue de chez lui avec ses élèves. Il faut simplement avoir un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Et l'élève peut suivre le cours, comme l'explique Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire.
Le principe, en fait, c'est qu'il y a la plateforme du CNED sur laquelle on est adossé, entre guillemets, avec des contenus pédagogiques et des classes virtuelles qui permettent ensuite aux professeurs et aux élèves d'interagir comme dans une classe, sauf que c'est par écran interposé. Et donc l'élève peut compléter un tableau en direct, répondre à ses camarades, lever le doigt, poser une question, travailler sur un document, etc.
Pendant cette période de fermeture des écoles, dans certains départements, comme c'est le cas actuellement dans l'Oise ou dans le Morbihan, l'idée est de pouvoir faire en fait un mix entre le travail en autonomie et le travail accompagné via justement ces classes virtuelles. Et pour le moment, les cours des programmes des premiers et deuxièmes trimestres des classes de grande section de la maternelle jusqu'à la terminale sont disponibles en ligne. Mais si cette période devait s'allonger, le CNED assure déjà qu'ils pourront sans problème déployer les cours du troisième trimestre.
Victor Delande du service Société d'Europe 1. J'ajoute que les salariés du Louvre ont à nouveau exercé leur droit de retrait. Aujourd'hui, le musée est resté fermé pour la deuxième journée consécutive.
Et sur le discours officiel, maintenant, l'objectif a clairement changé. Il ne s'agit plus d'empêcher l'entrée du virus en France, mais bien de ralentir au maximum sa propagation. Écoutez d'ailleurs le Premier ministre Édouard Philippe, il s'est déplacé au CHU de Bordeaux ce matin même.
Notre objectif, c'est de ralentir la circulation d'un virus qui est présent sur le territoire national. Mais pour que la lutte contre la circulation du virus soit pleinement efficace, il faut que chaque Française, que chaque Français devienne un acteur de ce combat. Ça veut dire avoir en tête des choses très simples à faire, mais qui sont essentielles. Se laver les mains toutes les heures, éternuer dans son coude lorsque l'on veut éternuer, tout ça fait partie de mesures d'hygiène, de bon sens, qui sont les garanties les plus solides pour éviter la libre circulation du virus.
Édouard Philippe au micro d'Adrien Beck. Quant à Emmanuel Macron, il bouleverse son agenda et annule deux déplacements prévus cette semaine, prévus sur d'autres sujets dans le Gers notamment. Annuler aussi le dîner du CRIF, le Conseil des institutions juives de France, où il devait participer demain soir. Et cela pour se concentrer pleinement sur le suivi de la crise, précise l'Élysée.
Au niveau mondial à présent, l'inquiétude grandit encore sur le plan économique.
La croissance pour 2020 est déjà revue fortement à la baisse par l'OCDE, 0,5% de moins au niveau mondial, 0,3% pour la France. On y revient tout à l'heure dans le journal de 19h. Des risques de récession aussi pointés pour l'Allemagne et l'Italie. Les ministres des Finances du G7 vont tenir une réunion téléphonique. Et par ailleurs, Paris, Berlin et Londres vont fournir un soutien matériel et financier à l'Iran, où le bilan s'est encore aggravé avec 66 morts.
Il est 18h08, vous écoutez Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Kretz.
L'actualité politique en France avec les suites du déclenchement de l'article 49.3 pour adopter la réforme des retraites à l'Assemblée. Les deux motions de censure déposées par l'opposition seront débattues demain et soumises au vote. La CGT et ses alliés de l'intersyndicale appellent à des manifestations, notamment devant les préfectures. Force ouvrière a aussi décidé de quitter la conférence de financement.
Europe 1. Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Des éoliennes, oui, mais pas chez moi, pas pour me gâcher le décor. Quand une commune se déchire sur un projet écolo, c'est à suivre dans ce grand journal du soir, en direct ce soir depuis Langouette, en Ille-et-Vilaine, où nous sommes installés jusqu'à 20h.
Et puis les mots du président turc Erdogan, les portes sont ouvertes, il menace l'Europe de lui envoyer des millions de migrants.
Deux heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec cette émission en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine, Nathalie Lévy.
Et oui, on se retrouve à 15 jours des municipales en direct de cette ferme qui nous accueille jusqu'à 20h en Ille-et-Vilaine, vous l'avez dit, pour parler de l'avenir des agriculteurs, pesticides, bien-être animal, mais aussi énergie renouvelable. Et dans les Pyrénées-Orientales, justement, plusieurs projets d'éoliennes rencontrent une vive opposition. Des habitants ont d'ailleurs décidé de mener le combat dans les urnes en se présentant aux municipales. Reportage ce soir à Tria de notre correspondant Benjamin Péter.
C'est du mitage de notre région. Ce qu'on lui reproche, c'est de détruire nos paysages.
Ce parc éolien, à la limite du village, Cécile Palmade n'en veut pas. Il y a la pollution visuelle, mais elle redoute aussi des risques pour la santé ou la biodiversité. Il y a un peu plus d'un an, elle a monté un collectif « Préservons le Fenouillède » pour lutter contre ce projet porté par l'actuel maire de sa commune.
Tout ça, pourquoi ? De gros bénéfices sur une société qui va reverser quelques miettes ? Quel sacrifice pour si peu d'argent ? Du coup, c'était pas prévu, mais on va se lancer dans la campagne municipale. Que le projet se fasse ou ne se fasse pas, j'aurais tout fait pour l'empêcher.
Dans ce tout petit village de 80 habitants, ils sont quatre à avoir déposé cette liste d'opposition le tout dernier jour en préfecture. Le maire Didier Fourcade assume, pour lui ce projet est écologique et va permettre de gagner 30 000 euros par an, une manne pour cette mairie au budget de 200 000 euros.
Beaucoup de gens m'ont dit, on est pour l'éolien, mais il ne faudrait pas qu'on le voie de chez moi. C'est un peu facile à dire ça. Et en plus, si une commune n'a pas ses rentrées d'argent et qu'elle vit que de la dotation de l'État, la commune s'asphyxie petit à petit et elle ne fait plus rien. On est là pour faire l'État civil et puis c'est tout. Il faut trouver des sources de revenus.
Alors lui se dit confiant sur l'issue des municipales et pense même que les habitants, en votant pour lui, valideront le projet de parc éolien. À Tria, Benjamin Péter, Europe 1.
Alors les éoliennes, le monde rural, les pesticides, on en parle jusqu'à 20h et avec vous aussi au 39-21, n'hésitez pas à nous poser vos questions. D'abord on évoque, Sébastien, le reste de l'actualité ce lundi soir avec cette nouvelle crise aux portes de l'Europe.
Ouais, situation explosive notamment sur l'île de Lesbos en Grèce. De nouvelles échauffourées ont éclaté aujourd'hui aux abords d'un camp de demandeurs d'asile. Un enfant est mort lors d'un naufrage. La Grèce en état d'alerte maximale face à un afflux très important de migrants depuis quelques jours, depuis que la Turquie a rouvert sa frontière en pleine escalade militaire avec la Syrie. Aujourd'hui, le président turc Erdogan a clairement menacé l'Europe. Écoutez.
Depuis que nous avons ouvert nos frontières, le nombre de ceux qui se sont dirigés vers l'Europe a atteint les centaines de milliers. Et il y en aura plus. Bientôt, ce nombre s'exprimera en millions. Soit nous nous assurons ensemble que ces personnes retournent vivre une vie honorable sur leur propre terre, soit chacun prendra sa part du fardeau.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan, propos jugé inacceptable à Bruxelles. Personne ne peut faire chanter l'Union européenne, répond le commissaire aux migrations. Une délégation sera envoyée dans la zone frontalière demain. On va en reparler à 19h avec notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry. Le procès de la fusillade du lycée de Grasse dans les Alpes-Maritimes a été reporté aujourd'hui en raison de la grève des avocats. Le jeune Kylian, 17 ans à l'époque des faits, sera finalement jugé à partir de demain pour tentative d'assassinat. Il avait blessé 5 personnes par balle dans l'établissement.
On termine avec l'actualité sportive et la très belle opération d'Alexis Pinturo sur les pistes autrichiennes.
Une victoire en géant et coup double, Corinne Boulou, bonsoir.
Bonsoir.
Il reprend la tête du classement général, Alexis Pinturo, du classement général de la Coupe du Monde de ski. Avec des beaux espoirs, on peut y croire ?
Oui, Alexis Pinturo en tout cas a frappé un grand coup. Hein, et aujourd'hui, victoire et première place provisoire dans la course au gros club de cristal qui couronne le skieur le plus complet de la saison. 23 ans que la France n'a plus connu cela. À Interstoder, le champion de Courchevel a commencé sa moisson avec une 4e place en Super G samedi. Et après sa victoire hier en combiné alpin, le voilà qui s'impose aujourd'hui avec maîtrise en géant. Une 29e victoire en Coupe du Monde qui tient une place particulière sur son tableau de chasse.
Elle est définitivement spéciale celle-là, c'est-à-dire déjà par le contexte, mais aussi surtout par le lieu.
à Interstoder, c'est ma quatrième victoire ici en 6 courses. Non, vraiment pas facile, pas mal de pression, surtout avec la fatigue des 2 derniers jours. Plus difficile à gérer ce genre de stress quand on est un peu plus fatigué, un peu plus éreinté. Il fallait vraiment serrer les dents, essayer d'avancer, attaquer. Je savais définitivement en venant ici que ce serait très important, qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient encore se passer et qu'il était important de répondre présent.
Oui, Alexis Pinturo, débarrassé du retraité Marcel Hirscher, a fait du classement général de Coupe du Monde l'objectif principal de sa saison. Du coup, malgré la fatigue, il a décidé cet après-midi de faire finalement un crochet par la Norvège le week-end prochain pour grappiller un peu plus de points dans ce sprint final.
Il reste quoi ? 8 courses, hein, c'est ça ?
Oui, 3 étapes.
En espérant que le virus ne vienne pas tout perturber parce que les dernières, je crois, se passent en Italie.
Oui, en Italie du Nord. Cortina d'Ampezzo, décision vendredi pour savoir si elles sont maintenues dans la Vénétie.
Merci Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. À vous, Nathalie.
Comme il est natif de Moutier, c'est mieux, Pinturo, vous avez raison.
Non, mais c'était ensoleillé. Hein.
Oui, c'était un peu, voilà, exactement.
C'est pas mal, Pinturo.
Bon. Je suis sûre qu'il appréciera. Merci à vous, Sébastien Crève. On se retrouve évidemment pour un nouveau journal complet à 18h30. Anissa, ça donne quoi ? Calme à l'Est ?
Oui, c'est ça. Demain, c'est une journée très calme à l'Est, effectivement, Nathalie, de la région parisienne jusqu'au Grand Est, hein, jusqu'à l'Alsace, en passant également par le Massif central, la vallée du Rhône, et bien dans toutes ces régions, la journée va commencer sous un ciel nuageux, mais des éclaircies vont faire leur apparition au fil de la journée. Et surtout, le plus important, c'est que le temps va rester sec. Attention tout de même au risque d'avalanche hein, à l'est qui reste très important sur les Hautes-Alpes. D'ailleurs, le département est placé en vigilance orange par Météo France. Sur le quart sud-est, sur le littoral méditerranéen, là, le ciel est voilé avec du vent en rafale qui souffle jusqu'à 80 km/h et des nuages qui seront de plus en plus nombreux dans l'après-midi. Sur les Pyrénées, le Massif central, la Corse, il va neiger. 1800 mètres pour les Pyrénées, 800 mètres pour le Massif central et la Corse. Et puis à l'ouest, là, c'est pas une très belle journée que vous allez passer demain, de la Bretagne à l'Occitanie en passant par les Pays de la Loire, le Limousin, le Poitou-Charentes, la Gironde, le Languedoc-Roussillon. Le ciel est nuageux dans la matinée et puis les pluies arrivent dans l'après-midi. Attention, le vent souffle fort sur le Pays Basque. Demain, les températures 2 à 7 degrés sur l'ouest demain matin, 0 à 4 partout ailleurs. Et dans l'après-midi, nous aurons 5 à Aurillac, 8 à La Rochelle, 10 à Bordeaux, 13 à Marseille, 16 à Nice et 10 pour Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec une émission en direct de Langouette. Vous êtes en Ille-et-Vilaine ce soir, Nathalie Lévy.
Oui, jusqu'à 20h, chaque lundi jusqu'au municipal, Europe 1 s'installe dans une région au plus près des préoccupations des Français. Ce soir, gros plan sur l'avenir des agriculteurs, l'épineux problème des pesticides, le bien-être animal. Tout cela, on en parle avec nos invités jusqu'à 20h et avec vous au 3921.
Votre grand journal du soir spécial élection municipale, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy est en direct de Langouette, au nord-ouest de Rennes. Et ce soir avec vous Nathalie, on parle pesticides, environnement et agriculture.
Et oui, on s'est installé dans une ferme, la ferme de Michel et Aurore Communier qui nous accueille jusqu'à 20h. Merci à vous, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, vous nous accueillez ici parce qu'on avait envie de zoomer aussi à 15 jours de ces municipales sur le malaise des agriculteurs, l'épineux problème des pesticides, le bien-être animal et tant d'autres sujets encore. Avec vous également Jean Viard, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, auteur du Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube et Jimmy Guérin nous a rejoint également. Bonsoir à vous, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes un agriculteur de Langouette hein, qui utilise, vous n'êtes pas loin, Langouette
à côté de Vignoc et la Mézière. Mais...
D'accord, et vous utilisez toujours des pesticides?
Oui.
Eh bien, très bien. On va pouvoir en discuter dans un petit instant. Merci en tout cas. D'abord, parce que vous l'avez entendu, Jean Viard et vous tous autour de cette table, le coronavirus a fait une nouvelle victime en France aujourd'hui dans le département de l'Oise. D'abord, cette question d'actualité qui, à mon sens, s'impose. De plus en plus, 130 cas hein, désormais confirmés, 12 régions au total. Les agriculteurs qui ont dû remballer un jour avant la fermeture officielle le salon de l'agriculture. Les matières agricoles face à l'épidémie, l'inquiétude des agriculteurs, ça va être peut-être la prochaine étape ?
Des agriculteurs, pas seulement, si vous voulez.
Bien sûr, mais c'est parce qu'on est là ce soir.
Voilà, non, mais pour ici aussi. C'est une période très bizarre, parce qu'au fond, on va tous se battre pour qu'il ne se passe rien. Et au fond, si on a réussi, il n'y aura rien. Et si on a raté, il y aura quelque chose. Et c'est très bizarre, parce que tout de suite après, s'il n'y a rien, il y a des gens qui vont dire « Ah, ça ne valait pas la peine d'en parler », etc. Donc c'est une bataille pour qu'il ne se passe rien, et je crois qu'il faut se mobiliser là-dessus. Mais c'est très curieux, et d'habitude, on se bat pour construire, gagner un match, construire un mur, élever une vache, bam, des choses concrètes. Et là, c'est à l'inverse. Donc c'est, en même temps, d'un point de vue de société, c'est passionnant, mais c'est hyper dangereux. Et donc, les enjeux sont
très énormes. Inquiétants. Justement, Michel Erreur-Communier, alors on va préciser que vous êtes père et fille, hein, pour être tout à fait précis pour nos auditeurs. Michel Erreur-Communier, vous qui êtes agriculteur là, ici, est-ce que vous êtes déjà là très informé? Vous recevez des circulaires, des consignes, la mairie, le gouvernement, il y a des choses qui passent, la préfecture, par rapport au coronavirus?
On n'a pas, au niveau des animaux, on n'a pas forcément, on n'a pas grand chose à faire. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de choses. Après, il faut faire comme tout le monde, faire attention, bien se laver les mains. Et,
D'accord, donc pas de consigne particulière pour l'instant, à ce stade?
Non.
Rien. Vous, Jimmy, pareil?
Non, pas grand chose, à part qu'on commence à voir certains impacts sur nos productions. Et,
c'est-à-dire?
Et ben, par exemple, moi, je devais vendre des animaux cette semaine, ils sont retoqués à la semaine prochaine pour l'instant.
Quels animaux?
Des bovins pour la boucherie.
Donc les bovins, ça veut dire qu'il y a peut-être une inquiétude qui se pose sur les bovins, c'est ce qu'on signifie?
Enfin, je sais pas, mais je sais que.
Qu'est-ce
qu'on dit? Parce qu'on exporte aussi des animaux en France et à l'export, on voit que ça commence à déconner.
À l'export, on voit que ça commence à dérailler, c'est-à-dire, je comprends pas, qu'est-ce qu'on vous dit exactement?
On nous dit seulement que nous, on vend dans des pays comme l'Italie, par exemple, et ils commencent à consommer moins, les magasins sont fermés, tout est fermé, les gens, ils consomment pas.
Voilà, donc pour dire un mot de cette actualité, parce qu'on en a parlé, troisième décès en France et cette inquiétude donc dans le département principalement de l'Oise. Je voudrais qu'on aille directement dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, parce que si on est à Langouette, c'est pas un hasard. Langouette, premier village de France à avoir pris un arrêté municipal anti-pesticides, c'était en mai dernier, cassé depuis par une décision du tribunal administratif de Rennes. Daniel Cueff, le maire, du coup la commune a été très médiatisée, il n'a pas renoncé, hein, il mène toujours le combat. Et nous avons ici finalement les deux aspects de ce dossier avec vous, évidemment Michel et Aurore Communier, avec vous Jimmy Guérin qui continuez d'utiliser des pesticides. Comment vous avez accueilli d'abord Jimmy quand vous avez vu le combat que menait Daniel Cueff? Comment vous avez compris et comment vous avez accueilli cette décision?
Tout d'abord, déjà, je voudrais vous reprendre, parce que mon agriculture conventionnelle, ce n'est pas que d'utiliser des pesticides, c'est un ensemble de choses. Je ne voudrais pas qu'on fasse que le débat que sur les pesticides. Comment j'ai pris, moi et mes collègues agriculteurs, ont pris l'arrêté de M. Cueff? Nous, on le connaissait, on savait le fond de sa pensée. Après, il n'avait pas prémédité son coup, si on peut dire, donc nous, on l'a pris comme c'est venu d'un coup. Comme un coup de massue. Je pense que ces conseillers municipaux l'ont pris pareil parce qu'ils ne les avaient pas prévenus à l'époque. Et nous, tout de suite, on s'est mis en ordre de marche pour se défendre, pour ne pas se faire attaquer comme ça avait été le cas. On n'est pas venu nous chercher pour dialoguer, donc nous, on n'allait pas aller le chercher non plus pour dialoguer. On avait été mis de côté, donc nous, on s'est tourné directement vers les instances et on a voulu savoir si vraiment fallait écouter cet arrêté-là. Et s'il fallait en tenir rigueur, et tout de suite, on a su qu'on n'avait pas à écouter cela. Donc, on s'est, enfin, voilà.
Michel et Aurore, vous êtes aujourd'hui une ferme bio depuis 1996, hein, je crois.
Tout à fait, depuis 1996.
Voilà. Michel, vous avez commencé avec les pesticides, donc.
Moi, j'ai vendu des pesticides, c'est vrai, aux agriculteurs, pendant 20 ans. J'en ai utilisé après pendant 10 ans, en insecticide pur et dur, parce que j'ai travaillé dans un silo. Oui. Donc, insecticides violents qui détruisent les charançons, les... Ouais. Toutes ces petites bestioles là qui inquiètent les céréales, quelque part. C'est vrai qu'à un bout d'un moment, on change d'avis. Et pour moi, c'est une bonne chose de changer d'avis.
Et alors, comment le process s'est mis en place, là, typiquement chez
Si vous voulez, là où je travaillais dernièrement, j'avais beaucoup d'irritation sur les jambes et les bras avec des insecticides. Je me suis dit, si je continue comme ça, à 55 ans, je suis mort. Donc, j'arrête, je m'en vais, je pars.
Donc un problème de santé publique. Jean Viard, c'est comme ça que ça s'est signalé chez Michel. Aurore a évidemment enchaîné, vous avez continué sur la lancée de votre papa. Voilà le match qui s'est joué là, dans cette commune ici de Langouette, mais qui est une problématique dont on peut parler partout en France aujourd'hui.
Oui, bien sûr, parce qu'il y a à peu près 10% des fermes qui sont passées en bio, soit à peu près 50 000 sur 500 000, juste pour donner un ordre de grandeur. Mais surtout, on voit bien que la société évolue à toute vitesse, quoi. On va le voir au municipal parce que la demande des verres va monter, etc. Et on voit bien la tension, y compris la violence de gens qui d'ailleurs comprennent rien à l'agriculture, mais qui sont convaincus que c'est dangereux, et puis l'évolution à l'intérieur de la profession. Donc c'est une question compliquée parce qu'il y a une demande d'évolution. Au fond, c'est une révolution verte à laquelle on est, une immense révolution technologique, culturelle, Et en plus, il faut dire une chose toujours, c'est qu'on a construit 16 millions de maisons avec des jardins autour de nos villes. Donc la plupart des fermes, au bout du champ, il y a une maison. Avant, il n'y avait pas. Il y avait à bout de la ferme, il y avait une autre ferme. Il y avait des villages, il n'y avait pas de paysans, mais ils habitaient ensemble. Donc il y a des problèmes de voisinage. Regardez l'histoire du coq Maurice, de l'Oléron, enfin, des tas d'histoires. Donc ça veut dire qu'on est en train d'être en conflit sur le territoire, sur les savoir-faire, sur les nouvelles façons de travailler. Et les scientifiques, en plus, sont trop longs. Une partie agriculteur aussi. On voit bien, sur des questions comme ça, il n'y a peut-être pas simplement bio ou pas bio. Mais en tout cas, c'est certain qu'il y a un certain nombre de produits. Et alors après, il y a aussi des gens qui vont prendre un somnifère pour dormir tous les soirs et qui ne vont pas vouloir qu'on mette ça. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont en plein changement. Il y en a qui vont plus vite que d'autres et on est là en plein milieu de ce bouillonnement. En
fait. Exactement. Nous, on est effectivement en train d'assister à ce changement qui se joue sous nos yeux. C'est ça, le monde change. C'est Europe 1 qui signe aussi de cette manière. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est que vous êtes anti-pesticides, clairement, Michel et Aurore. Jimmy, vous continuez d'en utiliser. Et vous êtes ce soir face à face avec Jean Viard qui nous accompagne pendant ces deux heures dans une discussion intelligente et point par point, on va essayer de comprendre et de démêler le vrai du faux.
Votre grand journal du soir, émission spéciale élection municipale. Vous pouvez réagir. N'hésitez pas. Ça se passe au 39-21. Jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Un troisième décès lié au coronavirus recensé en France. Une femme âgée originaire de Crépy-en-Valois, cette commune de l'Oise où enseignait le professeur déjà décédé la semaine dernière. Nous serons sur place dans le journal de 19h. Des consultations médicales ont commencé pour les élèves du collège où il travaillait. À l'échelle du département, ce sont plus de 20 000 élèves pour qui la reprise des classes a été repoussée. L'OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance, 0,3% de moins pour la France. La Grèce en état d'alerte à ses frontières. Le président turc Erdogan menace l'Europe de lui envoyer des millions de réfugiés en pleine escalade militaire avec la Syrie. Bruxelles envoie une délégation dans la zone frontalière demain. En France, Force ouvrière quitte la conférence de financement sur les retraites. Nouvelle journée de mobilisation demain à l'appel de l'intersyndicale au moment où seront voter les deux motions de censure déposées par l'opposition après le recours à l'article 49.3. François Fillon défend son épouse et la réalité de son travail. Le procès du couple a repris aujourd'hui. Récit à suivre dans le journal de 19h. Et puis le joli coup d'Alexis Pinturault. Il reprend la tête du classement général de la Coupe du Monde de ski après sa victoire en géant en Autriche. La météo à Nice avec une France coupée en deux. Tiens, c'est original.
Oui, mais alors cette fois-ci, c'est pas nord-sud, mais c'est est-ouest.
Ah bah,
vous voyez ? Alors à l'ouest, demain, c'est un temps très nuageux et très humide avec des pluies assez intenses, notamment dans l'après-midi. Et à l'est, de la région parisienne jusqu'à la région Rhône-Alpes. Et là, c'est un temps sec avec même de belles éclaircies dans l'après-midi. Attention, au bord de la Méditerranée, dans le sud-est, le vent d'ouest souffle toujours très fort, hein, jusqu'à 90 km/h, notamment sur la Corse. Et puis attention également sur les Alpes avec un risque d'avalanche et ce département des Hautes-Alpes placé en vigilance orange.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, édition spéciale ce soir, élection municipale. Vous êtes à Langouette, en Ille-et-Vilaine, au nord-ouest de Rennes, à quelques kilomètres de Rennes, Nathalie Lévy. Et ce soir, avec vous et avec vos invités, on parle pesticides, environnement, agriculture, alimentation. Et votre invité fil rouge qui vous a suivi depuis Paris, c'est Jean Viard. Il est sociologue et auteur du Sacre de la Terre, paru aux éditions de l'Aube.
Et oui, on s'est installé à Langouette à 15 jours des municipales parce que Langouette, je le rappelle aux auditeurs, c'est le premier village de France à avoir pris un arrêté municipal anti-pesticides. C'était en mai dernier, cassé depuis par une décision du tribunal administratif de Rennes. Alors on est installé chez Michel et Aurore Communier qui sont agriculteurs ferme de l'Aulne. Ils nous reçoivent jusqu'à 20h, père et fille. Et on a Jimmy Guérin qui est venu nous rejoindre également, qui est un jeune agriculteur qui utilise aussi des pesticides. Et ce qui est intéressant avec Jean Viard, c'est de voir qu'on a arrive à se mettre autour d'une table et à en discuter de manière extrêmement cordiale. Et Aurore, je voudrais vous poser la question à vous parce que Michel, lui, a connu l'avant bio, le travail avec les pesticides. Et puis, vous nous l'avez dit, Michel, vous avez eu, c'est votre santé hein, qui a commencé à vous alerter. Vous, Aurore, aujourd'hui, quand vous entendez Jimmy qui en utilise, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Et est-ce que vous imaginez une espèce d'idéal entre agriculture bio et utilisation de pesticides possible?
Je pense qu'il faut trouver des solutions pour arrêter ces produits qui détruisent la biodiversité et la santé aussi en même temps. Hein. Et il y a des solutions, hein. Faut juste faire des endroits de laboratoire, entre guillemets, tester des nouvelles choses et après que tout le monde se mette d'accord. Je pense qu'entre la MSA, le ministère de l'Agriculture, tout ça, on peut trouver des solutions.
Vous n'en utilisez pas du tout. Il n'y a pas une parcelle où vous n'utilisez
jamais.
Jimmy Guérin, quand vous entendez Aurore et Michel, vous ne vous dites pas « bon, bah, il faudrait peut-être que j'arrête ». Et est-ce que vous y avez pensé et comment ?
Eh ben, enfin, bien sûr qu'on a l'envie de diminuer. Nous, les produits, on les achète. Donc, bien sûr, ça sort de mon portefeuille. Et si je peux éviter d'en acheter, je le fais. Et si je peux éviter d'en utiliser pour l'environnement, je le fais aussi. Il faut savoir que quand je prends mon pulvérisateur pour aller m'occuper de mes plantes, je le fais suite à une attaque sur mes végétaux ou alors en préventif quand je devine via plein de solutions. On fait des bornes de double densité, par exemple, dans nos céréales pour nous prévenir d'attaques sur nos céréales et ce qui nous permet d'intervenir à temps, par exemple. On fait déjà des essais, beaucoup d'agriculteurs, de coopérateurs ou de firmes font des essais et essaient d'évoluer. On diminue nos produits. Enfin, moi, mon père le faisait avant et moi, je continue à le faire.
Faites en sorte de plus avoir la main lourde.
Mais bien sûr, il y a longtemps qu'on n'utilise pas nos produits comme c'est écrit sur le bidon. Il y a une dose homologuée. On la divise aujourd'hui par deux, par trois et encore plus. Mmh. Dans le but de faire des économies à la fois pour l'environnement et pour notre portefeuille.
Ouais. Qu'est-ce qu'on dit, Jean Viard, quand on voit aussi le poids des lobbies, quand on se dit est-ce qu'il est impossible à vaincre d'abord ce poids des lobbies ?
Il y a le poids des lobbies, puis il y a l'intérêt des entreprises.
Bien sûr.
Je veux dire, c'est clair que bon, l'intérêt des producteurs de ces produits, c'est d'en vendre plus. D'ailleurs, la quantité vendue n'a pas diminué, si je ne me trompe pas. On n'arrive pas à la faire diminuer en global. Hein. Donc, il faut le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui le diminuent, mais globalement, on ne diminue pas. Donc,
ça veut dire que finalement, le dosage...
Ça veut dire que c'est... Allez-y, il connaît mieux que moi, allez-y.
Non, ce n'est pas que je connais mieux que vous, mais aujourd'hui, rentre dans tous ces chiffres des produits de biocontrôle. Les produits utilisés aussi par l'agriculture biologique, ça s'appelle aussi des pesticides, mais par contre, ce ne sont pas des produits de synthèse. C'est des produits comme le cuivre, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Mais tous ces produits-là entrent dedans. Même les produits aujourd'hui de biocontrôle qu'on utilise, qui sont des produits, entre guillemets, je ne vais pas dire sains, mais des produits qui ne sont pas chimiques et qu'on utilise. Et tous ces produits-là rentrent dans la comptabilité des produits. Donc, c'est pour ça que ça augmente. Et aussi, une autre chose... De plus en plus de parcelles en France sont cultivées, et ce qui fait que la dose globale de la France augmente, si on veut. Mais si on la remet à l'hectare...
D'accord. Alors, Jean Viard et puis Michel, parce que je voudrais vous entendre.
Non, mais il y a une chose, c'est qu'on est tous... Par exemple, le recul des oiseaux. Les oiseaux, c'est très net qu'il y en a beaucoup moins. On le voit tous, je veux dire. Ouais. Donc, si vous voulez, il est incontestable qu'on est en train d'abîmer la nature. Je crois qu'il faut le reconnaître. Ils le font, personne ne le fait exprès. Et dans les fermes, s'ils mettent des produits, souvent, c'est parce qu'ils en ont besoin. Donc, je suis là-dessus. Mais n'empêche qu'on est en train d'abîmer la nature. Les algues vertes, on les connaît. La disparition des moineaux, on le connaît, etc. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Après, effectivement, comment on passe d'un modèle à un autre, comment on arrive à se nourrir dans de bonnes conditions et comment on redonne confiance dans l'avenir de l'agriculture.
Exactement. Voilà. Et comment vous avez fait, vous, Michel ? Comment vous avez fait pour passer d'une méthode avec pesticides à sans pesticides ? Parce que, est-ce que du coup, ça a aussi impacté votre production ?
La production, bien sûr, les rendements ont été impactés, bien sûr. Mais bon, est-ce qu'on a besoin de produire pour produire ? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Aujourd'hui, on produit des choses pour exporter. Et est-ce qu'on a besoin d'exporter aujourd'hui ? Est-ce qu'on a besoin de produire des produits non propres, je dirais, non propres, qu'on exporte ? On pourrait peut-être produire des choses pour la France, sainement.
Oui, sauf que j'aime beaucoup, Michel, l'idée, mais je ne suis pas sûre que ça corresponde à tout type d'exploitation et parfois d'exploitation usine, type usine.
Bon, puis il y a des pays, prenez les pays du sud de la Méditerranée, ils n'arrivent plus à se nourrir. Parce que, donc, si, je veux dire que si on n'exportait pas du blé en Algérie, au Maghreb, etc. Donc il faut faire attention. L'agriculture nourrit aussi les uns et les autres. Après, il y a certainement des logiques purement commerciales qui, effectivement, on détruit la nature parce que le seul but, c'est de gagner plus d'argent. Ce qui n'est pas un objectif en soi intéressant. On est d'accord là-dessus. Mais n'empêche qu'il faut bien voir toutes ces logiques et comment la logique économique va être cadré par des logiques de protection de la nature, qui est un droit aussi. La nature, elle ne vote pas. Mais je veux dire, ça existe. Et en même temps, on ne peut pas culpabiliser non plus les agriculteurs qui agissent, parce que je veux dire que d'abord, il y en a beaucoup qui font des efforts. Je crois qu'il faut le dire aussi, même dans les traditionnels, hein, l'agriculture raisonnée, etc. Donc, on est au milieu d'un changement. Le but, ce n'est pas de tirer sur les gens. Il y a beaucoup de gens qui agressent les agriculteurs en ce moment.
On a beaucoup parlé d'abriri bashing. Et
voilà,
on va venir.
Il faut en parler de ça, parce que c'est une vraie question. Mais en même temps, il faut aussi que les paysans acceptent. Une partie d'entre eux sont conservateurs. Allez. Pour dire les choses comme elles sont.
On se reparle dans un instant, bien sûr, avec vous, Michel Aurore, Jimmy et bien sûr Jean Viard qui nous accompagne jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine jusqu'à 20h sur Europe 1.
Municipal 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Édition spéciale en effet jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Vous êtes à Langouette, près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Et ce soir avec vous, on parle pesticides, environnement, agriculture, éolienne, alimentation. Et vous pouvez bien sûr réagir au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. À vos côtés, Nathalie, entre autres, Jean Viard, sociologue.
Oui, et depuis l'heure, Fabrice qui nous appelle ce soir. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Bienvenue à vous sur Europe 1. Alors évidemment, on est un petit peu partout en France hein, ce soir parce que ce qu'on se dit ici à Langouette en Ille-et-Vilaine résonne dans plusieurs régions. Vous êtes nutritionniste, je crois.
Oui, exactement.
Voilà. Et donc, évidemment, vous êtes très attentif à ce que font les agriculteurs.
Disons que, si vous voulez, les agriculteurs se bagarrent entre des industriels qui veulent leur payer les matières sorties de leur élevage le moins cher possible, et en même temps le lobbying de l'agribashing. On se retrouve avec des agriculteurs qui ont des gros problèmes financiers par rapport à des prix et des coûts de revient qui dépassent l'entendement. Et on va se retrouver, si on continue comme ça, dans les 20 ans, même pas 20 ans à venir, dans les 10 ans à venir, d'une agriculture qu'on va se rappeler sous forme de carte postale. Parce qu'on aura un gros problème de renouvellement de population et on aura un gros problème de production de nos biens en France. On ira acheter notre lait à l'étranger et on ira produire notre blé dans les terrains d'Ukraine ou dans les terrains qu'on ne maîtrise rien du tout. Si on ne fait pas quelque chose rapidement pour arrêter cet agribashing et en même temps travailler sur la proximité et le respect de ces agriculteurs, bientôt il n'y aura plus rien.
Merci beaucoup Fabrice, on va écouter Aurore, parce que Aurore, typiquement, vous dans votre ferme bio, la ferme de l'Aulne précisément, vos poules et vos poulets sont livrés deux fois par an, vous me dites si je me trompe, ils sont traités biologiquement à leur naissance, ils sont tracés.
Oui c'est ça, on reçoit les poules pondeuses, on a deux lots de poules pondeuses, donc on les change à intervalle à 6 mois d'écart, parce qu'il y a le renouvellement des poulettes à faire. Et on reçoit nos poussins pour les volailles de chair à un jour. Donc on a vraiment le suivi de la naissance de un jour jusqu'à l'abattage.
Et quels sont les critères pour obtenir la labellisation bio pour
Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des surfaces à respecter pour qu'elles puissent sortir. Il y a des surfaces dans le bâtiment. Il y a l'alimentation qui doit être bio. Et puis voilà, c'est ça principalement les contraintes, entre guillemets, du bio.
Jean Viard, l'alimentation, notre invité Fabrice nous le disait, la question de l'éthique, bien sûr, la question des produits locaux. On voit qu'il y a vraiment une tendance aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs, c'est quoi? C'est un feu de paille ou c'est vraiment un retour à des vraies valeurs, y compris dans l'assiette?
C'est un mouvement de fond, je dirais. D'ailleurs, il faut voir, les gens, ils mélangent souvent bio et local.
Oui.
Ils vous disent c'est local, c'est bio. Dans tous les marchés paysans qui se redéveloppent, les gens ils disent c'est local. Et si c'est local, en gros, je connais le paysan, donc c'est un lien qu'ils cherchent en fait. Le bio c'est un lien avec la nature, le local c'est un lien avec le paysan, on pourrait dire. Donc c'est ça, mais c'est des phénomènes je crois de fond, y compris pour une raison très simple, c'est qu'on sait tous que les métropoles produisent le cœur de la richesse, mais les gens préfèrent ne pas y habiter. Vous avez Paris, par exemple, vous avez 70% des cadres qui disent qu'ils n'ont pas envie d'habiter à Paris. Ils savent très bien que c'est là qu'ils gagnent leur blé. Mais donc, d'une certaine façon, on est une société où on produit de la richesse à un endroit et on a un peu envie d'habiter dans les villes moyennes et dans les bourgs. Il y a aussi cette image.
C'est possible d'avoir tout bio dans 30 ans, Jean Viard, selon vous?
Mais je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Parce que si vous voulez, que l'agriculture, les pesticides, tout ça, tels qu'on les connaît, n'existeront plus, ça me semble probable. On va inventer des choses peut-être moins dangereuses. Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Il y a aussi la question du prix. Il y a les gens très modestes, il y a les gens qui sont au SMIC, ceux qui sont pas même en dessous du SMIC, qui ont 600 euros par mois. Donc tu sais, le problème, parce que le bio, il est quand même un peu plus cher, en gros, un peu plus
Alors,
cher.
Voilà, Aurore et Michel,
il faut dire les choses. Non,
on va dire les choses telles qu'elles sont. Aurore et Michel, on a fait un peu notre marché en arrivant chez vous. On a acheté des produits frais et on a acheté aussi des produits transformés. On a combien, soyons clairs, on a combien de différences entre un œuf bio et un œuf ordinaire, Aurore ou Michel?
Un œuf bio, il est vendu dans les magasins bio 30 centimes l'œuf. Mmh. Hein. Un œuf en cage, ça vaut 12, 13 centimes, quoi. 15 centimes grand maximum. Quoi.
Ouais. Donc il y a une vraie différence. Vous assumez complètement cette différence, Aurore, Michel?
On l'assume totalement. Parce que le travail est totalement différent. Il y a une autre démarche. Il y a du travail autour de tout ça. Il y a une éthique. Il y a beaucoup de choses autour de tout ça.
J'en viens à un dernier mot.
Non, mais ce qui est sûr, c'est que si on veut que l'agriculture change, il faudra y mettre des moyens. Et ces moyens, ils sont payés par le marché, et donc c'est plus cher. Ou ils sont payés parce qu'on a une politique commune qui arrête d'être à l'hectare, qui modifie la PAC, etc. Mais il n'y a pas de secret. On ne peut pas changer une chaîne de production où il y a 500 000 acteurs. Enfin, il y a plus de 500 000 acteurs, il y a 500 000 fermes. Quoi. Oui. Et où souvent, les gens investissent sur le très long terme. L'agriculture, vous investissez des bâtiments, vous achetez des terres, ça dure longtemps. Et donc, quand vous voulez changer en cours de route, c'est un peu comme un super tanker. Vous pouvez pas tourner comme un kart. Quoi. Et donc, c'est un peu ça où on est au milieu aussi.
Ouais. Plus de 7 000 paysans qui se sont convertis à l'agriculture bio en 2019. Donc, c'est plutôt un bon signal, nous dit Jean Viard. On en reparle évidemment avec vous dans un tout petit instant depuis Langouette où nous sommes en direct en Ille-et-Vilaine.
Votre grand journal du soir spécial élection municipale avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Jusqu'à 20h, c'est une édition spéciale de votre grand journal du soir en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine. Nathalie Lévy avec vos invités. Ce soir, on s'intéresse aux pesticides, à l'environnement, à l'agriculture, à notre alimentation. Vous pouvez bien sûr continuer à réagir en direct au 3921 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos messages. À vos côtés, toujours, votre invité fil rouge, le sociologue Jean Viard, Nathalie.
Oui, bien sûr, et nous sommes installés dans cette ferme. Michel et Aurore Communier, père et fille, nous ont accueillis dans cette ferme de l'Aune. Jimmy Guérin, qui est jeune agriculteur, également est à nos côtés ce soir. Et nous serons en ligne, évidemment, avec vous au 3921, les auditeurs qui nous appellent ce soir. Je voudrais faire un petit zoom avec vous quand même sur Langouette. 600 âmes, ce petit village gaulois, comme il est décrit, 100% écolo ou presque, logement passif, café participatif, cantine bio, une centrale solaire. Je me demandais juste, Jean Viard, quand on voit ce modèle-là, on se dit que ça peut être un modèle de repeuplement des campagnes?
Mais d'abord, les campagnes sont en train de se repeupler. Donc, il faut faire attention parce que la population des campagnes augmente plus vite que celle des villes, sauf dans certaines zones particulières. Donc, le mouvement n'est plus du tout à la dépopulation rurale. Mais après, je pense que c'est des laboratoires. Comme tout laboratoire, ils ne vont pas se reproduire à l'identique. Moi, je les vois comme des laboratoires d'innovation. Ouais. Et en tant que tels, ils sont intéressants. C'est un peu comme les tiers-lieux dans les villes. C'est aussi des laboratoires. Ouais. Donc, acceptons des laboratoires, observons, cherchons des façons de vivre ensemble grâce à ça.
Alors, vous nous dites que les campagnes sont en train de se repeupler. Et pourtant, il y a ce malaise des paysans. On va y venir dans un petit instant. Je voudrais juste savoir comment vous avez fait le pont, Michel et Aurore. Quand Michel, finalement, vous avez accueilli Aurore avec vous dans cette ferme, vous l'avez transformée ensemble en ferme bio. Est-ce qu'il y a eu une hésitation de la part d'Aurore? Est-ce qu'il y a eu une crainte de votre part de travailler avec elle, de poursuivre dans ce domaine?
Aucune crainte du tout. Voilà, on a créé autre chose. On a créé un magasin à la ferme pour pouvoir dégager un salaire supplémentaire. On la ligne, c'est tout.
C'est tout. Et vous, Aurore, vous vous êtes pas dit, il y a un vrai malaise aujourd'hui dans cette profession. Il y a d'ailleurs le suicide d'agriculteurs, on va y venir dans un petit instant.
D'éleveurs surtout,
vous avez raison, Jean Viard. Je vais peut-être me poser la question à deux fois.
Non, parce que je savais qu'on vendait tout en circuit court et que c'était quelque chose qui était en pleine expansion. Quand je suis arrivée en 2011, moi, il n'y avait pas de... On a ouvert le magasin, on s'est dit, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, tant pis, on fermera et puis on verra où on va. Quoi. Faut tenter pour savoir, quoi.
Et aujourd'hui, vous avez bien fait de tester.
Oui, bah oui, bien sûr, oui. Oui. Le marché est en expansion, les gens recherchent du local et du bio.
Vous pouvez dégager, pardonnez-moi cette question, mais 3 salaires? Maman, papa et Aurore, 5 salaires donc, parce que vous avez une équipe.
On est 4 associés, on a un salarié.
D'accord. Donc c'est plutôt effectivement une réussite. Jimmy, vous êtes dans cette exploitation avec bovins et céréales, ce que vous me disiez tout à l'heure en off. Vous, votre situation aujourd'hui, quelle est-elle?
Eh ben moi, je suis associé avec mon père, installé il y a 3 ans. Et moi, j'ai repris une autre exploitation en m'installant. Et nous vivons aussi de notre métier. Faut le dire comme c'est, on arrive à dégager aussi nos 2 salaires. Et voilà.
Alors aujourd'hui dans l'Oise, pardonnez-moi, aujourd'hui dans en Ille-et-Vilaine, parce qu'on va dans l'Oise dans le journal, aujourd'hui en Ille-et-Vilaine, il y a peut-être plutôt un climat positif. Je ne sais pas si c'est selon les régions aussi, Jean Viard, mais...
Il n'y a pas une agriculture. Je dis, on prenait le vin en ce moment, ça va plutôt bien. Il y a une crise terrible dans le lait et dans les éleveurs, y compris aussi parce que si on peut dire des choses comme ça, est-ce qu'élever les animaux et s'en occuper tous les jours, notamment pour le lait, dans notre mode de vie, c'est complètement possible. Je veux dire, il faut voir aussi l'art de vivre. C'est des gens qui travaillent tous les jours. Quand vous avez fait de l'élevage, c'est tous les jours.
Mais comment on aide ces nouveaux arrivants dans le métier, Jean Viard ? Parce qu'il y a quand même un malaise, et vous l'avez dit, les exploitants. Vous dites aussi qu'il y a 3/4 de filles qui arrivent dans le métier.
Dans les écoles d'agriculture, ouais. Il y a 3/4 de filles. Donc, si vous voulez, c'est un métier qui change. C'est pour ça. Alors après, c'est toujours pareil. Les 50 000 fermes bio, elles sont moins grosses que les autres. Donc, parce qu'on en parlait, au fond, c'est encore quasiment des militants. Donc, ils font tout. Ils vont de l'œuf à la casserole, enfin à l'assiette presque, quasi pas.
C'est tout juste. C'est ce qu'on voit d'ailleurs chez
donc,
Michel.
Et puis ils défendent des valeurs. Donc c'est à petite échelle. Donc c'est maîtrisable par leur solidarité, leurs valeurs.
Donc ça dépend aussi de la taille de l'exploitation.
Et oui, mais si vous rentrez dans une coopérative, moi dans mon village, une coopérative, plusieurs milliers d'agriculteurs, etc., c'est une autre machine. Donc si vous voulez, comment est-ce qu'on fait de ça pour ça, je dis c'est des laboratoires intéressants. Comment, quand on grossit, on arrive à gérer la question, c'est la question qui est dans les 20 prochaines années devant nous. Hein. Et comment on va arriver à faire gros et bio ?
Jimmy, Aurore, vous voyez faire ça toute votre vie ?
Ben. Moi, oui.
Alors, Aurore, oui.
moi aussi. Quand on se lance, bien sûr, au début, ça peut faire peur, mais on y arrive. La preuve, tous les deux, on est encore là aujourd'hui et on sera là, je pense, demain. Peut-être que dans notre métier, on a aussi parfois décrié notre modèle parce que les agriculteurs se plaignent plutôt souvent. Mais on est demandeur de nouvelles personnes à venir dans notre métier. Enfin, le renouvellement des générations chez nous, jeunes agriculteurs, c'est notre sang. Et aujourd'hui, on a encore plus besoin qu'hier de nouvelles personnes. Et c'est eux aussi qui changeront notre modèle. Aujourd'hui, il n'y a plus un modèle agricole. Il y en a un par exploitation, si je puis dire. Personne ne fait la même chose. Et c'est ça qui nous rend encore plus beaux et plus fiers en France d'avoir ces modèles agricoles qui est reconnu dans le monde partout. Parce que nous, ici à Langouette, on nous montre du doigt. Mais notre modèle, partout ailleurs dans le monde, est montré aussi du doigt, mais d'un clin d'œil positif.
On va se retrouver dans un petit instant. On va y revenir avec vous tous autour de cette table. Et merci encore de nous accueillir, Michel et Aurore Communier, dans cette ferme de l'Aulne, avec Jean Viard, avec vous, Jimmy Guérin, et nos invités qui nous rejoignent dans un instant. On sera à Paris avec vous, Sébastien Crève, de votre journal, dans un instant, en direction du département de l'Oise, avec un 3e décès en France du coronavirus.
Votre grand journal du soir, en édition spéciale, c'est avec Nathalie Lévy, jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Et jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine pour une émission spéciale consacrée au grand thème de ces élections municipales. Et dans un instant, restez avec nous jusqu'à 20h. On va parler effectivement d'environnement, d'agriculture. On va parler des abattoirs, des éoliennes, des alternatives. Vous pouvez continuer à réagir. Vous êtes nombreux sur Twitter avec le hashtag Europe 1 et au 39-21. Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 19h.
Je ne comprends pas pourquoi ma fille n'est pas convoquée par rapport au dépistage. Quoi. Le fait qu'elle soit en contact avec d'autres élèves au sein de l'établissement, beaucoup peuvent avoir le coronavirus sans le savoir. Quoi.
Le département de l'Oise, toujours en première ligne, rentrée des classes repoussées, dépistage au collège et un nouveau décès annoncé ce soir, le 3e en France. À l'échelle du monde, c'est l'économie qui inquiète, prévision de croissance revue à la baisse par l'OCDE. Dans ce journal aussi, une visite d'ampleur inédite. Les présidents des 3 institutions européennes se rendent demain à la frontière entre la Grèce et la Turquie, alors qu'une nouvelle crise migratoire menace. Et puis François Fillon bataille face au juge pour justifier du travail de sa femme. Récit à suivre au tribunal. La tendance météo, Anissa ?
Avec 2 départements ce soir placés en vigilance orange, les Hautes-Alpes pour risque d'inondation, risque d'avalanche assez important, et la Haute-Corse pour risque d'inondation. Le temps sera très agité demain à l'ouest. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
C'est le 3e décès en France lié au coronavirus, le 2e dans le département de l'Oise, plus que jamais en première ligne ce soir. Écoutez le maire de Compiègne, Philippe Marigny.
C'est une personne décédée dans la journée d'hier. C'est une dame âgée qui souffrait de différentes pathologies et le diagnostic du Covid-19 a été effectué post-mortem.
Un propos recueilli par notre envoyé spécial Nicolas Feldman dans l'Oise. Cette femme était donc originaire de Crépy-en-Valois, précisément la ville où travaillait l'enseignant décédé la semaine dernière et où plusieurs autres cas ont déjà été détectés. Nous y sommes ce soir avec vous, Théo Manval. Bonsoir.
Bonsoir.
Le collège est resté fermé aujourd'hui, rentrée repoussée comme pour une centaine d'autres établissements. Et des tests médicaux ont commencé pour détecter d'éventuels nouveaux cas.
Exactement. Aujourd'hui, ce sont d'abord les enseignants et le personnel adulte du collège qui ont débuté ces tests. Quelques élèves aussi, accueillis par des membres de la réserve sanitaire. Ils ont passé des consultations pour détecter d'éventuels symptômes et, si nécessaire, un prélèvement dans le nez avec un coton-tige ainsi qu'une prise de sang. Ces mêmes tests se poursuivront ensuite demain pour 185 élèves du collège. Pas tous, donc, seulement ceux dont l'Agence régionale de santé estime qu'ils ont pu être en contact rapproché avec ce professeur de technologie décédé. Contact avant qu'il ne parte en arrêt maladie. Et cette sélection inquiète certains parents, comme Bruno, sa fille est en 6e.
Je ne comprends pas pourquoi ma fille n'est pas convoquée par rapport au dépistage. Le fait qu'elle soit en contact avec d'autres élèves qu'elle connaît au sein de l'établissement, beaucoup peuvent avoir le coronavirus, mais sans le savoir. C'est inquiétant.
Inquiétude des parents, car on a appris aujourd'hui que le même type de test serait étendu demain aux élèves d'un autre établissement de Crépy, le lycée Jean Monnet, où exerce l'épouse du professeur décédé et où plusieurs cas du virus ont été confirmés par les autorités de santé ces toutes dernières heures.
Théo Manval, depuis Crépy-en-Valois dans l'Oise, un nouveau foyer est aussi apparu dans le Morbihan. 5000 élèves n'ont pas pu retourner en classe aujourd'hui. À Paris, le musée du Louvre est aussi resté fermé. Les personnels ont fait valoir leur droit de retrait pour la deuxième journée de suite. Le stade épidémique en France, à ce stade, n'est pas encore atteint, mais il s'agit, a redit le Premier ministre, avant tout de ralentir au maximum la progression du virus avec cette consigne toujours répétée, se laver les mains le plus souvent possible.
Et plus largement, ce sont les conséquences sur l'économie mondiale qui préoccupent.
Ce soir, la Bourse de Paris a repris timidement, plus 0,4%. L'impact à long terme est encore la grande inconnue. Bonsoir Carole Ferry.
Bonsoir.
L'OCDE revoit les prévisions de croissance à la baisse pour 2020 et notamment pour la France.
Oui, alors des prévisions particulièrement pessimistes pour la France avec une chute de 0,3 points. L'OCDE table sur une croissance sous les 1% en France en 2020 à 0,9% précisément. C'est très en dessous des 1,2% prévus par Bercy, impact du coronavirus compris. Bercy qui ne souhaite pas commenter ces nouveaux chiffres. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a toutefois reconnu aujourd'hui qu'il fallait s'attendre à un impact beaucoup plus significatif que ce qui a été envisagé jusqu'à présent. D'ailleurs, toutes les grandes filières de l'économie française ont rendez-vous au ministère demain matin pour faire le point sur la situation. Parmi les secteurs les plus impactés, le tourisme, les hôtels d'Île-de-France qui ont réussi à résister en février voient les annulations arriver en masse pour le mois de mars. Selon le commissaire européen Thierry Breton, les professionnels du tourisme auraient enregistré 1 milliard d'euros de pertes à l'échelle européenne depuis le début de l'année. Thierry Breton qui évoque par ailleurs un risque de récession en Allemagne et en Italie, sachant que la durée de l'épidémie sera évidemment déterminante.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Force ouvrière claque la porte à son tour et quitte la conférence de financement sur les retraites. Les deux motions de censure déposées par l'opposition seront débattues et soumises au vote demain soir. En cas de rejet, la réforme des retraites sera adoptée par l'Assemblée en première lecture en vertu de l'article 49.3. La CGT et ses alliés appellent à des manifestations, notamment devant les préfecture demain.
Venons-en maintenant à la situation aux frontières de l'Europe. La Grèce en alerte maximale.
Afflux très important de migrants depuis plusieurs jours, depuis que la Turquie a rouvert sa frontière. Ce matin, un enfant est mort lors d'un naufrage au large de l'île de Lesbos. Les frontières de l'Europe sous pression. Bonsoir Isabelle Horry. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. La situation est telle que demain, les présidents des trois institutions européennes seront à la frontière, Isabelle ?
Oui, la présidente de la Commission européenne, ses collègues du Parlement européen et du Conseil se déplacent tous ensemble demain. C'est inédit. Ils veulent montrer aux Grecs que le reste de l'Europe a conscience du problème, mais ils veulent aussi rappeler au reste de l'Europe que la frontière entre la Grèce et la Turquie, c'est la frontière extérieure de tout l'espace Schengen. Écoutez Ursula von der Leyen.
Notre priorité, c'est de donner à la Grèce et à la Bulgarie tout le soutien dont elles ont besoin pour gérer la situation sur le terrain. Parce que le défi auquel fait face la Grèce, en ce moment même, c'est un défi qui concerne toute l'Europe.
La Grèce a d'ailleurs déjà demandé officiellement l'aide de l'Agence européenne des frontières. Après évaluation des besoins, Frontex va lancer un appel aux autres pays européens pour des hommes et du matériel dans les 10 jours. Par solidarité aussi sans doute, les Européens restent silencieux sur le fait qu'Athènes a suspendu la réception des demandes d'asile pendant un mois. Une décision pourtant incompatible avec le droit international, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Nous attendons des détails, a lâché prudemment Bruxelles ce midi.
Isabelle Horry en ligne de Bruxelles pour Europe 1. Le procès des époux Fillon continue devant le tribunal correctionnel de Paris pour détournement de fonds publics sur les emplois présumés fictifs de Pénélope Fillon, avec toujours des questions sur la réalité de son travail d'assistante parlementaire. Salomé Legrand, vous avez suivi l'audience du jour, accumulation de témoignages, et en face, bien, ce qu'on peut dire, c'est que François Fillon a réponse à tout.
Eh oui, en tout cas, ses réponses. Il a fait tout l'après-midi des allers-retours entre le banc des prévenus, où il griffonnait nerveusement des notes sur chaque témoignage évoqué, et la barre où il ressasse les mêmes arguments. Si sa femme n'avait quasi aucun contact avec ses autres collaborateurs, c'est que son travail était intellectuel et politique, des tâches de supervision. On ne travaille pas avec son conjoint comme avec un collaborateur extérieur, martèle-t-il. Il regrette au passage les nouvelles réglementations de l'Assemblée nationale qui interdisent d'employer sa famille. Une suspicion dangereuse, glisse-t-il. Le patchwork des témoignages est pourtant varié, depuis les préfets de la Sarthe jusqu'aux journalistes locaux, en passant par un ancien DRG. Peu ont perçu le rôle de madame auprès de son élu de mari. Peu importe, François Fillon critique leur pertinence et fustige une instruction à charge. Tout ça n'a aucun sens, s'agace-t-il régulièrement, mâchoire de plus en plus serrée pour ne pas imploser. L'un après l'autre, le procureur insiste. Soit je ne suis pas assez clair, soit vous avez un problème de compréhension, grince finalement François Fillon, qui invite les magistrats à profiter de ce procès, je cite, pour revoir leur vision du rôle social de l'épouse. La réponse fuse. Et inversement.
Salomé Legrand en ligne du Palais de Justice de Paris. D'un mot pour terminer les sports et puis ce joli coup d'Alexis Pinturo. Il reprend la tête du classement général de la Coupe du Monde de ski. Il peut peut-être croire au globe de cristal, en tout cas après cette victoire en géant en Autriche. À vous Nathalie.
Et du côté du ciel, Anissa, merci Sébastien, on se retrouve évidemment dans moins d'une demi-heure. C'est plutôt agité à l'ouest, c'est ça, là où on se trouve.
Exactement, là où vous vous trouvez, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées. Demain, Nathalie, en passant par le centre Val-de-Loire, le Poitou-Charentes, le Limousin, le Gers, les Hautes-Pyrénées et évidemment l'Angouette en Ille-et-Vilaine. Eh bien, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer, puisque sur toute la côte atlantique, demain, le ciel est très nuageux. Des nuages qui, dans l'après-midi, vont même vous apporter de la pluie, des pluies qui seront accompagnées de vent d'ouest. Alors le vent d'ouest, il va souffler principalement sur le sud-ouest, hein, sur le Pays Basque, demain, avec des rafales jusqu'à 100 km/h. À l'est, c'est beaucoup plus calme, de la région parisienne jusqu'à l'Alsace, puis sur les Alpes, la vallée du Rhône, le massif central. Là, le temps reste sec avec même de belles éclaircies dans l'après-midi. Attention tout de même, hein, sur les Alpes, si vous êtes encore en vacances dans ce secteur, au risque d'avalanche, il reste très élevé demain. D'ailleurs, le département des Hautes-Alpes est placé en vigilance orange par Météo France. Au bord de la Méditerranée, le soleil sera voilé de plus en plus dans la journée, hein, les nuages feront leur retour et puis le vent va souffler au bord de la Méditerranée et en Corse avec des rafales jusqu'à 100 km/h. C'est toujours ce vent d'ouest qui souffle. Les températures, moins 6 à Barcelonnette, il fait froid, 0 au Puy-en-Velay, 2 à Besançon et Paris, 4 à Brest. Dans l'après-midi, nous aurons 6 à 11 degrés sur la grande partie du pays et 11 à 16 dans la moitié sud. Sachez qu'également Météo France vient de placer le département de la Haute-Corse en vigilance orange pour crues inondations.
Europe 1.
Europe 1, votre grand journal du soir en édition spéciale à l'Angouette avec vous, Nathalie Lévy.
Et oui, pour parler à 15 jours de ces municipales, de tous ces sujets autour des agriculteurs, l'épineux problème des pesticides, le bien-être animal, le bien manger et bien sûr les énergies renouvelables, on va zoomer sur tous ces aspects dans un petit instant avec nos invités ici même à l'Angouette, dans cette petite ville de 600 âmes. Hein. On se retrouve dans un instant.
Et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21 pour réagir et poser vos questions en direct ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos messages. Nathalie Lévis, jusqu'à 20h.
Municipal 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir est en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine, au nord-ouest de Rennes. Ce soir, Nathalie Lévy, vous êtes entourée de vos invités. Et avec vous, on parle environnement, agriculture, abattoir, éolienne et toutes les alternatives à ces sujets, évidemment. Vous pouvez réagir au 39-21. Nathalie, c'est à vous.
Oui, et autour de la table, Jean Viard est avec nous, sociologue, auteur du Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube. Merci à vous. Nous sommes accueillis par Michel et Aurore Communier, père et fille, agriculteurs bio, qui nous reçoivent dans cette ferme de l'Aube. Merci encore à vous de nous avoir ouvert vos portes. Jimmy Guérin nous accompagne également. Vous êtes, vous, agriculteur bovin, céréales. Hein, c'est voilà ce que vous avez sur votre exploitation, entre autres. Et puis, j'aimerais bien qu'on se parle quand même, évidemment, du bien-être animal. Parce que le ministre de l'Agriculture a présenté fin janvier 15 mesures en faveur du bien-être animal. Ça, c'était en 2016, vous allez écouter, alors que l'association L214 commençait vraiment à faire parler d'elle. L'interview de la porte-parole de l'association, Brigitte Gauthier, au micro alors de Jean-Marc Morandini.
Pas tant qu'on tuera des animaux pour les manger, en fait. Les abattoirs, le fonctionnement, enfin, c'est des lieux très violents. Ça fait un moment qu'on le dit. Même avec tout un tas de contrôles, une volonté politique, effectivement, d'encadrer le mieux possible, c'est pas possible d'ôter la vie sans faire souffrir un animal. Donc, effectivement, d'un côté, il y a des infractions à la réglementation. Mais de l'autre, enfin, il faut pas croire que parce que la réglementation est respectée, qu'on va avoir des images idylliques d'animaux heureux de se faire tuer.
Voilà, c'est pas possible d'ôter la vie à un animal sans le faire souffrir, mais en même temps, faut pas croire au Père Noël, en quelque sorte, hein, c'est ce qu'elle nous disait. Michel et Aurore, parce que vous avez des poules, hein, ici, dans votre ferme bio, est-ce que vous savez, vous, aujourd'hui, d'où elles viennent, comment sont traitées les poussins mâles ?
Alors, nous, les poules pondeuses, on les achète à une coopérative, et on ne sait pas officiellement ceux qui font des poussins mâles, mais on se doute bien, quand même, que pour les poules pondeuses, il n'y a pas le choix, il faut que des femelles de toute façon. Après, au niveau des volailles de chair, on prend mâles et femelles mélangées du tout venant. Ça dépend voilà, ce qui naît quand on nous livre. Donc, voilà.
Donc quand vous nous dites on imagine que le traitement n'est pas à la hauteur aujourd'hui de ce que veut l'éthique et de ce que veulent les...
Malheureusement, pour l'instant, on ne peut rien faire. Il y a des études qui sont faites pour le sexage dans l'œuf. Donc, en espérant que cette méthode se développe et qu'on puisse avoir quelque chose de beaucoup plus éthique.
Jimmy, vous avez des bovins, vous, et des céréales. S'agissant des bovins, vous savez comment ça se passe ?
Nous, nos bovins naissent sur l'exploitation ou sont achetés dans d'autres exploitations. Mais comment ça se passe pour la mort, vous voulez parler ? Ou plus pour l'élevage ? Nous, l'élevage, on le fait... on n'a qu'une envie, c'est que nos bovins soient bien traités. Et puis, que leur élevage se passe bien et qu'ils grossissent normalement, dans des périodes normales, etc., on n'a pas le choix de bien les élever et d'une bonne santé. Après, pour ce qui est de la mort, si c'est ça la question...
Est-ce que vous dites aujourd'hui, par exemple, qu'il faut des caméras dans les abattoirs ?
Des caméras dans les abattoirs, non. Après, que ce soit bien fait, bien sûr, que c'est ce qu'on souhaite. Nous, on élève toute la vie de l'animal, notre animal, du mieux possible. On souhaite que sa mort se passe le mieux possible. Après, la mort, c'est un gros mot. Enfin, on devine derrière ce qu'il y a. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est que nos animaux ne s'en rendent pas compte, que nos animaux soient bien traités jusqu'à leur dernière seconde de vie. Et après, aujourd'hui, les abatteurs ont fait de gros efforts. Nos abattoirs sont contrôlés. Il y a des vétérinaires sur place, des personnes envoyées par l'État sur place. De là à mettre une caméra derrière chaque salarié, je pense que personne... n'a envie
d'être surveillé.
Voilà.
Il faut aussi le respect effectivement de la personne. Jean Viard, est-ce qu'on est à un tournant ?
C'est compliqué parce que plus on s'éloigne de la campagne, plus au fond la mort de l'animal, on ne devrait pas en parler. Parce que dans les villes, on n'en parle pas. Quand on a été beaucoup plus près dans les campagnes et tout, je dirais qu'on avait tous vu, etc. Ouais. Donc la mort de l'animal, au fond, d'ailleurs, si vous regardez quand on en parlait tout à l'heure, mais les bio mangent beaucoup plus de viande hachée que de morceaux de viande, parce que quelque part, l'animal a disparu. C'est plus un animal, c'est de la viande hachée. Donc si vous voulez, ça aussi, ça veut dire qu'il y a une évolution. Voilà. Après, effectivement, je pense aussi qu'il y a des excès. Notamment parce que comme on a fait d'énormes abattoirs, ça devient des machines à mourir. Et c'est des machines souvent mal gérées. Enfin, les films qui sont...
Les films qui sont faits existent. Il y a des exploitations usines. Ça a été prouvé.
Les associations qui nous entourent là, et qui ont fait des vidéos n'ont pas fait de vidéos dans les grands abattoirs parce qu'il n'y a rien.
Certaines.
Non. C'est que dans les petits abattoirs communaux. Vous pouvez regarder. Toutes les vidéos qui ont été faites sont plutôt dans des petits abattoirs parce que sans doute ils ont peut-être moins de moyens, moins de personnel, moins aussi de références et ils sont peut-être aussi moins surveillés. Après, moi, je ne suis pas là pour le savoir. Il y a l'État qui est là pour contrôler. Et c'est à eux de faire ce qu'il y a à faire.
Est-ce que vous dites, Michel, est-ce que la réponse politique aujourd'hui est à la hauteur des exigences éthiques et environnementales, Michel ? Vous qui êtes sur le terrain depuis des années maintenant, est-ce que vous voyez les politiques se mouiller sur ces sujets et faire ce qu'il faut ?
Il se mouille dans certains cas, oui, certains cas, dans certains moments bien précis, surtout avec des élections par exemple. Là, ils vont se mouiller un peu plus. Mais c'est vrai, il n'y a pas grand-chose de réellement fait, quoi.
J'en viens. On va se retrouver dans un petit instant parce qu'on va se dire évidemment ce qu'il en est au niveau des abattoirs avec des modèles nomades aussi qui sont aujourd'hui discutés. Et est-ce que ça peut être ça la suite? On en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir spécial élection municipale, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir, en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine, tout près de Rennes. Nathalie Lévy, avec vos invités, on s'intéresse à l'agriculture, à l'environnement, aux abattoirs, aux éoliennes. On en parle avec vous et avec vos invités. Votre invité fil rouge qui vous a suivi depuis Paris, le sociologue Jean Viard, auteur du Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube.
Oui, et on est également avec les auditeurs en ligne au 3921. Yves qui nous appelle depuis l'Essonne. Bonsoir à vous. Vous
oui,
avez écouté sans doute cette première partie déjà sur le bien-être animal et les mesures annoncées par Didier Guillaume il y a quelques jours de cela. Quel est votre point de vue?
Écoutez, moi je sais, dans le précédent quinquennat, sous M. Hollande, donc, le Parlement avait reconnu que les animaux étaient des êtres sensibles. Ils ont mis du temps, mais c'est arrivé. Et donc, moi, je pense qu'il faut minimiser les souffrances des animaux, les souffrances physiques et morales des animaux dans les abattoirs. Et pour ça, la seule chose qui permet de le vérifier, c'est la présence de caméras. D'ailleurs, M. Macron, dans sa campagne présidentielle de 2017, l'avait promis. Cette promesse n'a pas été tenue.
Sauf que coûte du respect du salarié, c'est ce qu'on disait
oui,
ici autour de la table.
Oui, à condition de mettre les caméras dans des postes précis, le poste de l'étourdissement, et pas partout. Il ne s'agit pas de mettre une caméra derrière chaque salarié. Il s'agit quand même de vérifier qu'il n'y a pas de cruauté ou de violence inutile. Alors, c'est mon avis.
C'est votre avis. Merci beaucoup. D'un mot.
Voilà. Le deuxième point, c'était qu'on respecte la réglementation, c'est-à-dire que l'étourdissement est obligatoire et ce n'est pas respecté dans la plupart des abattoirs.
Exactement. Et toujours pas d'inscription dans la loi à ce jour, hein, les mesures annoncées par Didier Guillaume. Michel, je vous voyais à la sortie de Yves qui nous disait qu'il faut des caméras dans les coins au moment finalement de...
Sensibles.
Ouais.
Les coins sont, les endroits
vous,
sensibles.
Vous êtes favorable
voilà,
aux caméras.
Pas sensibles. Les endroits sensibles. Le reste, après c'est parti. Si la bête est morte, ben après il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus rien. Donc voilà, mais aux endroits sensibles.
Aurore ?
Oui, moi je serais pour... au moins être sûr que l'animal soit bien endormi, quoi. Qu'il ne se réveille pas sur la chaîne, voilà, parce que ça, c'est affreux, quoi. Donc, il faut vraiment être sûr qu'il soit bien endormi.
Donc, vous, Michel et Aurore Communier, vous nous dites oui pour les caméras. Jimmy nous disait non il y a quelques instants. Et on est en ligne avec Émilie Janin également. Bonsoir, vous êtes éleveuse. Vous avez, Émilie Janin, un projet d'abattoir nomade, hein, très exactement. Qu'est-ce que cela veut dire exactement?
Bonsoir, oui, eh bien, écoutez, en fait, on parle plutôt d'abattoir mobile, voilà, et en fait, c'est simplement plusieurs camions qui sont équipés avec toutes les installations qu'il y a besoin sur une chaîne d'abattage pour répondre à toutes les obligations sanitaires, et qui vont se déplacer, du coup, d'une ferme à une autre. Et du coup, on arrête de transporter les animaux vivants, et ça va être l'outil en tant que tel abattoir qu'on va transformer, et qu'on va transporter, pardon, de ferme en ferme.
Alors j'aimerais bien entendre Jean Viard et Jimmy sur ce sujet, si vous le voulez bien, Jimmy Guérin. Jean Viard, Jimmy Guérin, l'abattoir nomade, en tout cas mobile, ça fait sens? Ça apporte autre chose?
Je ne peux pas donner un avis là-dessus. D'abord, il y a le problème de la quantité, et puis il y a le problème que les bêtes, c'est intelligent. Et donc, si vous amenez toujours des camions, les mêmes, qui font le même bruit, et après, ils tuent, les autres animaux vont s'en apercevoir. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il n'y a aucun modèle qui est parfait. Qu'après, regardez à Guillestre, ils ont fait un abattoir coopératif où c'est les paysans eux-mêmes qui viennent tuer leurs animaux. On peut dire que quelque part, ils les traitent mieux, mais c'est absolument pas rentable, sauf que ils le font dans leur chaîne de valeur. Donc moi, je pense que sur tout ça, il y a besoin de contrôle, il y a besoin d'encadrement. Vous savez, c'est comme dans tous les boulots. Il faut des cadres, il faut des contrôles des salariés. Pas forcément par des caméras, mais qu'il y a un responsable contrôleur, quoi. Ça peut être tout simplement un cadre, enfin.
Voilà,
ou un paysan qui peut contrôler à tour de rôle. On peut très bien considérer qu'il y a un agriculteur qui, tous les jours, est dans la pour contrôler, ça peut être un professionnel. Faut pas non plus, on n'est pas dans un régime policiers, quoi. Mais il y a une vraie question, parce qu'on est très sensible à ces questions dans nos sociétés, et après tout, peut-être hypersensible, mais parce qu'on a des animaux domestiques, etc., qu'on dépense un pognon dingue à soigner nos chats et nos chiens. Moi, ça, juste un mot, mais mon oncle, était, mon parrain était vétérinaire, mais il n'aurait jamais soigné un chien domestique. Lui, il soignait les vaches, il soignait ce qu'il produisait. Et quand un chien n'allait pas, il lui dit, bah, file-lui un coup de fusil. Je veux dire que c'était, ça semblait normal dans les campagnes, quoi. Aujourd'hui, vous mettez, vous voyez les gens, ils n'ont pas de sous, mais ils laissent 200-300 euros sur leur chien. Donc, c'est, on a changé de sensibilité.
L'éthique.
C'est très bien. Je ne suis pas contre du tout. Voilà, mais acceptons de le dire comme ça, et qu'après, il faut respecter aussi ceux qui travaillent. Mais moi, je ne suis pas contre qu'il y ait un agriculteur en permanence à tour
dans,
de rôle,
dans la ferme, dans l'exploitation.
Qui vérifie, parce que lui, il y a du côté des bêtes. C'est un peu comme avocat de la vache, ouais. Si on peut dire. Oui.
Jimmy Guérin, je pense que, évidemment, Michel et Aurore vous adoubez, vous souscrivez à ce que dit Jean Viard. Jimmy Guérin, sur à la fois ces abattoirs mobiles, nomades, comme le propose à l'instant Émilie Jeannin, qui est éleveuse, parce que vous élevez quoi d'ailleurs, Émilie Jeannin?
Moi, j'élève des vaches charolaises, en fait. Et donc,
Donc, vraiment, vous savez de quoi vous parlez.
Puis j'emmène des animaux tous les 15 jours dans les abattoirs, donc je sais à peu près de quoi il en retourne et comment ça se passe. Et alors, l'argumentation qu'on entend dans la bouche de M. Viard, là, c'est quelque chose qu'on connaît archi par cœur, parce que ça fait partie des éléments de langage balancés à l'époque par les industriels de la viande, en disant, mais ça ne peut pas être économiquement rentable. Alors moi, si ce n'était pas économiquement rentable, ça fait bientôt 3 ans que je travaille dessus, j'aurais abandonné depuis bien longtemps. Bien sûr que ça peut être rentable. Et l'intérêt de l'expérimentation d'abattoirs mobiles qui a été lancée à l'occasion de la loi Egalim dans l'article 73, c'est justement de pouvoir avoir des chiffres sur les abattoirs fixes et mobiles, parce que sur les abattoirs fixes, on n'a aucune donnée sur ce que c'est que le coût de revient d'abattre 1 kilo de carcasse. Voilà, on n'a pas de chiffres.
Alors j'entends ce que vous dites, mais regardez... Jimmy Guérin, il est agriculteur, il est aussi éleveur. Alors dites-nous, vous, ce que vous en pensez d'un mot.
Oui, moi je suis éleveur. Enfin, pour répondre à madame, moi je sais ce que ça coûte de tuer un animal. On sait que ça revient à 80 centimes du kilo de carcasse. Ça, tout le monde le sait, tout éleveur le sait. Moi, je préfère franchement amener mes animaux à l'abattoir qu'amener l'abattoir à ma ferme. Pourquoi ? L'emmener devant mes vaches, ça ne m'intéresse pas. Nos animaux, comme l'a dit M. Viard, ils sont bien plus intelligents que nous et ils s'en rendraient compte. La mort a une odeur et je n'ai pas envie de leur faire partager ça. Moi, ce qui m'inquiète, la première chose, c'est le sanitaire. Aujourd'hui, on a des normes européennes, des normes sanitaires. Nos abattoirs ont des normes extrêmement drastiques, et tant mieux, parce que c'est aussi notre alimentation et c'est derrière nos maladies, etc., qui en découlent. Et moi, ce que je souhaite, c'est que nos abattoirs, peut-être, soient mieux suivis, soient encore mieux entourés pour le bien-être animal. Par contre, d'aller abattre des animaux dans nos fermes, avec tout ce que comportent nos fermes, c'est plus ou moins propre, c'est... plus ou moins bien rangé, et amener un abattoir mobile pour tuer quelques animaux à chaque fois dans nos fermes. On sait que dans nos fermes, on n'est pas tout le temps en train de tuer une dizaine d'animaux chaque semaine, donc ce serait sans doute des cadences aussi beaucoup plus basses quand on sait que le nombre d'animaux qui est abattu en France par semaine.
On a entendu votre fébrilité sur le sujet. On va se retrouver dans un instant, on va continuer à parler du bien-être animal, on va parler aussi des éoliennes, parce qu'on en a vu pas mal sur le parcours pour arriver jusqu'à vous. Ça gâche le paysage pour beaucoup d'agriculteurs et même d'habitants de régions. On en parle dans un petit instant.
Votre grand journal du soir, émission spéciale élection municipale, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Il est 19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs le rappelle des titres.
L'économie mondiale inquiète du coronavirus. Les ministres des Finances du G7 vont tenir demain une réunion pour tenter de trouver une réponse coordonnée. Aujourd'hui, l'OCDE revoit à la baisse ses prévisions de croissance, notamment pour la France. 0,3% de moins. La France qui a enregistré aujourd'hui son 3e décès, le 2e dans le département de l'Oise. Une femme âgée qui souffrait d'autres pathologies. À retenir également ce soir, Force ouvrière quitte à son tour la conférence de financement sur les retraites. Nouvelle journée de mobilisation demain. À l'appel de l'intersyndicale, alors que doivent être débattues les 2 motions de censure déposées par l'opposition à l'Assemblée. Réunion d'urgence à Bruxelles, les ministres de l'Intérieur européens sont convoqués mercredi pour venir en aide à la Grèce, confrontée à une nouvelle crise migratoire. Et puis on votait aujourd'hui en Israël, 3e législative en moins d'un an, les précédentes n'ayant pu dégager de majorité ni à Benjamin Netanyahou ni à son rival Benny Gantz. La tendance météo, Anissa, attention, deux départements en vigilance orange ce soir.
Oui, effectivement, Sébastien, il s'agit du département des Hautes-Alpes pour une vigilance orange avalanche, car effectivement, le risque d'avalanche est très élevé encore pour ce soir et demain dans les Alpes. Et puis le département de la Haute-Corse, une vigilance orange crue et inondation parce que la pluie arrive. Alors pour demain, c'est assez simple à retenir. La France sera coupée en deux avec un temps agité à l'ouest, de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées, sur toute la côte atlantique et même jusqu'au Limousin. Et bien là, les nuages seront très présents. La pluie va arriver dans l'après-midi. Et puis à l'est, c'est beaucoup plus calme. Demain, de la région parisienne jusqu'à l'Alsace, sur le massif central de la vallée du Rhône, une journée qui va commencer sous les nuages et puis les éclaircies seront de plus en plus présentes dans l'après-midi. Les températures, elles sont fraîches. 5 à Aurillac, 8 à La Rochelle et Limoges, 10 pour Bordeaux et Paris, 13 à Marseille et 16 à Nice. Ça, c'est pour l'après-midi.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h, c'est une édition spéciale élection municipale en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine, tout près de Rennes. Nathalie Lévy, on vous retrouve avec votre invité spécial qui vous a suivi depuis Paris, c'est Jean Viard, le sociologue, auteur du Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube, et vos nombreux invités autour de la table pour ce soir parler agriculture, environnement, abattoir, éolienne et les nombreuses alternatives, Nathalie.
Oui, on est chez Michel et Aurore Communier depuis 18h maintenant, dans leur ferme bio, la ferme de l'Aulne. On est avec Jimmy Guérin qui est agriculteur, éleveur de bovins également. Merci à vous tous d'être avec nous autour de cette table. Merci à Jean Viard. Je voudrais aussi effectivement qu'on aille sur ce qu'on a vu, sur le passage du train qui nous a conduit jusqu'à vous, ces éoliennes qui souvent gâchent le paysage. Alors il y a des avis très partagés. Il y a aussi le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim en Alsace qui a fermé le 22 février. Là, il y a quelques jours. Alors, que répondre aujourd'hui à ceux qui disent il y a destruction d'emplois, il y a gaspillage d'argent, il y a mais pour être écologique, eh bien, il faut en passer par là. On est avec vous, Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Vous êtes ingénieur spécialiste des énergies. Merci de nous répondre à l'instant. D'abord, le sujet de l'éolien, précisément, il divise de plus en plus. Jusqu'aux écologistes eux-mêmes, est-ce bon ou mauvais pour l'environnement, au fond ?
Ça dépend de ce qu'on cherche. Voilà. Si ce qu'on cherche, c'est à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2, remplacer du nucléaire par de l'éolien ne change pas la donne. Ça, ni le nucléaire ni l'éolien n'émettent de CO2 quand on s'en sert. Si on s'intéresse à la question de l'espace, le nucléaire est beaucoup plus économe d'espace que l'éolien parce qu'en fait, pour remplacer un seul réacteur nucléaire, il faut installer beaucoup, beaucoup d'éoliennes. Par exemple, pour fournir la même production que le réacteur de Fessenheim qui vient d'être fermé, avec simplement des éoliennes, en ordre de grandeur, il va falloir en mettre quelques milliers. Donc ça occupe nécessairement de la place.
Ça consomme
également plus de métal parce qu'il y a moins d'énergie dans une masse d'air en mouvement que dans de l'uranium en train de fissionner. Donc, il faut utiliser beaucoup plus de métal pour finir par avoir la même quantité d'électricité à l'arrivée. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des trous dans la terre ailleurs pour les mines, etc. Il faut mettre des plombs.
Donc, ce n'est pas gagnant-gagnant. Ce qu'on entend, c'est que ce n'est pas du tout gagnant-gagnant, Jean-Marc Jancovici. J'en viens à Opiné du Chef pendant qu'on en parlait. Les éoliennes, en plus, la fourniture, elle est intermittente.
Non, mais le problème du nucléaire, c'est les déchets. Je veux dire qu'en gros, il n'y aurait pas de déchets, je n'aurais pas vraiment de discussion. Enfin, il y en aurait quand même, mais pas autant. Oui. Bon. Une éolienne, en moyenne, si j'ai bien capté, ça fournit à peu près 2000 foyers. Donc, il faut avoir ça dans la tête, quoi. Donc, on voit le nombre qu'on est, etc. Mais moi, je crois qu'il faut dire les choses. On est en changement énergétique. Donc, le nucléaire, c'est une énergie de transition, je pense, qui sera indispensable, y compris pour le développement des pays pauvres. Mais à terme, peut-être que dans 100 ans, il n'y en aura plus. Si vous voulez, on passe d'un modèle à un autre. À quelle vitesse, etc. C'est encore la même chose. Et je crois que les éoliennes, c'est celles en mer, sont moins gênantes. Et moi, j'aime beaucoup les éoliennes. Donc, je fais partie de cela. Mais en même temps, je n'ai pas envie d'en avoir dans mon jardin. Donc, il faut trouver les deux éléments.
Et oui, Michel, Aurore, Jimmy, on les a vues, les éoliennes. Elles se bousculent, j'allais dire, tout le trajet là, qu'on a fait depuis Paris. Ça gâche le paysage et ça n'est pas à la hauteur des attentes. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Moi, l'éolien, c'est très beau chez les autres, mais très mal devant chez soi.
Ouais, c'est ça.
Donc, je dirais que je ne sais pas s'il n'y a pas une possibilité, au lieu de monter des éoliennes, si on mettait des panneaux photovoltaïques sur toutes les entreprises, même s'il fallait subventionner les entreprises pour monter des panneaux sur les toitures, ce serait peut-être aussi malin que de monter des éoliennes à 100 ou 150 mètres qui gâchent la nature.
Qui gâchent la nature. Aurore, Jimmy, pareil, vous en
oui,
avez
en plus, on a eu. Enfin, on a quand même quelques informations qui font que. Un agriculteur qui a ses vaches au niveau des éoliennes, les vaches sont très perturbées par ça. Donc
pourquoi c'est les infrasons, c'est ça? Enfin, il y a des espèces de.
Ils disent, bah, il y a le bruit, de l'éolienne, et puis il y a ça émet des, je sais plus comment on dit, mais
des ondes.
Voilà. Je suis pas sûre que ce soit bon. Je pense que les panneaux solaires seraient, à mon avis, une solution. Simple.
Oui. Jimmy, pour finir le tour de table.
Eh ben non, bah, je suis un peu d'accord avec ce qui s'est dit. Par contre, il y a peut-être des endroits en France où on pourrait les mettre et que ça gênerait peut-être moins le paysage. Il y a des grandes plaines où il y a moins de vues et il y a sans doute du vent. Il y a peut-être un peu de place aussi en mer. Il y a peut-être aussi l'hydraulique qui peut être aussi plus travaillée. On le voit moins. Après, attention à l'environnement, parce que tout ça, c'est du béton et aussi de la ferraille. Ouais. Bien sûr, je rejoins, pour ce qui est du photovoltaïque, je pense que ça peut être encore plus développé. On voit qu'au Salon d'agriculture, il en a été question.
Vous avez raison sur l'hydraulique. Janvier, la planète, elle est recouverte à plus de 70% par les océans et par les mers. On se dit qu'aujourd'hui, l'hydraulique, c'est peut-être quand même la solution. On se dit aussi qu'Emmanuel Macron, il y a peut-être une prise de conscience sur l'éolienne. Alors, peut-être pas pour les municipales, mais en tout cas, il a dit oui, ces constructions anarchiques, c'est plus possible, ces installations anarchiques.
Mais moi, je ne suis pas spécialiste d'énergie, mais je pense qu'il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. On est en train d'investir des milliards dans ITER, qui est le centre mondial de recherche pour aller après le nucléaire, qui est près de Cadarache, donc qui est en France, le centre mondial. Donc on cherche là. Il y a l'hydrogène, on est en train de chercher. Il y a évidemment le soleil, qui apparaît une évidence. Il y a effectivement en mer, ce qui est en train de se passer. Donc je veux dire, on cherche des tas de solutions. Et en plus, encore une fois, il faut peut-être arrêter d'avoir un modèle national. Avec EDF, on avait un système. Il y a peut-être des régions, elles seront éoliennes parce que c'est le bord de, il y a du vent. D'autres, ça sera le bord de mer, etc. Je crois qu'on va aussi vers une proximité de la production d'énergie, y compris l'agriculture, parce qu'on n'oublie pas la biomasse, on n'oublie pas la forêt, qui sont des éléments. En France, la forêt, elle n'est pas travaillée, alors qu'il y a 20 ou 25% du sol. On est très mauvais, on importe le bois. Enfin, je veux dire, donc, on a un énorme boulot aussi dans ce qui est traditionnel.
La méthanisation,
c'est exactement.
Alors, est-ce que passer à 100% d'énergie renouvelable, c'est possible? On en parle dans un petit instant depuis Angouette. On est en Ille-et-Vilaine, évidemment, depuis 18h avec nos invités.
Et vous pouvez réagir, n'hésitez pas, ça se passe au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos messages. Votre grand journal du soir en édition spéciale élection municipale jusqu'à 20h.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Une édition spéciale en direct de Langouette en Ille-et-Vilaine, tout près de Rennes. Nathalie Lévy avec vous, avec vos invités. Vous recevez le sociologue Jean Viard et puis de nombreux agriculteurs qui sont autour de vous. On parle environnement, on parle agriculture, éolienne avec vous jusqu'à 20h, Nathalie.
On est toujours en ligne ici depuis cette ferme de l'Aulne à Langouette en Ille-et-Vilaine que j'ai écorché malheureusement tout à l'heure. Mais regardez Michel et Orcomier qui nous accueillent. Je crois qu'on va mettre dehors avant la fin. Jimmy Guérin est avec nous également, agriculteur, éleveur. Et bien sûr, vous l'avez dit, Jean Viard. Et on est toujours en ligne avec Jean-Marc Jancovici. Merci à vous, vous êtes ingénieur. On n'est plus en ligne avec donc Jean-Marc Jancovici, mais on va le rejoindre dans un petit instant. Je voudrais retourner avec vous avant de se quitter dans quelques minutes, mais on a encore un petit peu de temps, sur la situation quand même des agriculteurs. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure en début d'édition, on a vu ces suicides, on a vu ce grand malaise quand même de l'agriculture. Aujourd'hui, on voit quand même une courbe qui baisse en 30 ans, mais de toute évidence que l'on peut stopper parce que vous nous l'avez dit, Jean Viard, il y a quand même un renouvellement, il y a quand même des femmes aujourd'hui qui vont dans les formations, qui vont dans les écoles, et on se dit la France, elle reste un poids lourd de l'agriculture au sein de l'Union européenne, donc il y a les moyens aujourd'hui de se repenser, de se réinventer.
Oui, mais il faut dire, je vais vous donner deux chiffres. Il y a un sondage qui dit récemment, il demandait aux gens, est-ce que vous aimez bien vos agriculteurs? Vous en avez 88% qui disent oui. Et quel est leur défaut? À 55%, ils disent ils polluent trop. Donc on est entre ces deux choses. C'est-à-dire ce sentiment qui pollue trop et le sentiment comme on les aime bien parce qu'ils nous nourrissent. D'abord, quand même, c'est quand même important.
Parce que
c'est notre culture.
C'est notre culture,
on est
c'est notre patrimoine.
Paysanne, donc on a tous l'impression, etc. Donc on est dans un. Il faut bouger. Mais pour bouger, il faut donner des moyens. Parce qu'il faut dire une chose, il y a un tiers des agriculteurs, ils ont plus de 60 ans, en gros ils vont partir, donc même s'ils sont un peu archaïques, c'est pas dramatique, ils vont s'en aller. Il y a un tiers qu'il faut reformer, et puis il y en a un tiers qui sont en mouvement, ou qui sont innovants, etc. Donc il y a un énorme chantier, quoi. Et y compris, je vais dire juste une chose, le plus important c'est de protéger le sol. Même si on ne sait pas ce qu'on va en faire, on en fera quelque chose demain. L'avenir de nos sociétés, c'est le sol qui nourrit, qui habille, qui produit l'énergie, qui capte le carbone. Il faut sauver la terre. Les paysans, ben, on va les sauver. Ceux qui ne pourront pas, ils ne s'adapteront pas.
Jimmy, est-ce que vous avez été victime d'agribashing ? J'entends par là ce mot-là qu'on a vu émerger à l'été 2019. Ces agriculteurs qui sont montrés du doigt, qui sont critiqués. Ça a été beaucoup le cas sur les réseaux sociaux, souvent parce qu'il y avait l'utilisation de pesticides ou aussi parce qu'il y avait ces traitements dans les abattoirs et le mauvais traitement de l'animal. Je crois qu'il y a votre chat qui est en train de monter sur mes genoux. Pardonnez-moi. Voilà.
Victime d'agribashing, pas par des citoyens. Je n'ai pas eu le cas, mais je sais que des collègues ont eu le cas. Par contre, j'ai été victime d'agribashing par mon maire, par le maire de la commune sur laquelle je pouvais exploiter de la terre, de le maire de Langouette, par exemple, parce que ça, c'était nettement de l'agribashing. C'était une attaque que aux agriculteurs sur des choses infondées. Donc ça, c'est ce que moi, j'appelle de l'agribashing. Après, maintenant, je pense qu'il est temps qu'on change aussi, que nous, on s'est mis à...
Qu'est-ce que vous attendez pour ces élections municipales, là, au 15 mars ?
Eh bien, que nos maires et que nos municipalités se rendent compte que l'agriculture, c'est d'abord un service pour eux, c'est un service d'entretien de leur territoire. On est les seuls à pouvoir stocker du carbone en France, il faut le dire. Si tout le monde respire, c'est grâce aussi aux agriculteurs, il n'y a pas que les forêts. Oui. Nos cultures captent du carbone. Mmh. Et bien sûr, on nourrit la population et... on a besoin de nous pour vivre, tout
bien
simplement.
Bien sûr. Michel Aurore, qu'est-ce que vous dites, vous, à la veille de ces municipales ? Une agriculture vertueuse, c'est ce que vous faites au quotidien dans cette ferme, évidemment, bio. Mais qu'est-ce que vous dites aussi, à la fois sur le plan local et sur le plan national, quand on voit cette controverse entre les différentes façons de traiter ces terres ?
Moi, je crois que c'est dommage parce qu'on a tout arraché les haies. On a tout détruit les talus. Aujourd'hui, les grandes parcelles de terre en pente, il y a une érosion énorme. Toute la terre arable part des parcelles. Dès qu'il vient un orage, ça part au fossé. C'est une catastrophe. Il faudrait que les agriculteurs se prennent en main et replantent des haies dans tous les bouts de champ terrain en pente. Ce devrait être une obligation de nos gouvernants.
Une obligation de nos gouvernants aussi pour vous, Aurore, celle-là ou une autre ?
Oui, après, il faut dans les petites communes ou moyennes communes, les maires sont un peu plus proches
des exploitants, des agriculteurs, des habitants, voilà, des citoyens.
Mais si au niveau national, rien n'est fait et s'il n'y a pas de décision prise, que ce soit au niveau des arbres, des haies, des pesticides, tout ça, s'il n'y a pas quelque chose de tranché, la polémique va rester et va s'ancrer et ça va diviser les gens encore.
Continuer de diviser les gens. On se reparle, Jean Viard, vous nous ferez, entre guillemets, votre conclusion dans un petit instant, parce que je vous ai vu noter. Donc, c'est que vous avez, évidemment, des choses à nous dire. Bien sûr, le renouvellement de ces agriculteurs, de ces exploitations, comment elles se transforment aussi, on va conclure là-dessus dans un petit instant.
Et votre grand journal du soir, en direct de Langouette, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
Municipale 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Une édition spéciale en direct jusqu'à 20h de Langouette en Ille-et-Vilaine. Vous êtes à côté de Rennes, Nathalie Lévy, avec vos invités ce soir.
Oui, Langouette en Ille-et-Vilaine, dans cette ferme où nous accueille Michel Aurore, communier ferme de l'Aulne, avec Jimmy Guérin, jeune agriculteur, et bien sûr notre invité Jean Viard, sociologue, auteur du Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube. On va bientôt conclure, mais on est heureux d'avoir été au contact de ces exploitants, de ces agriculteurs, de ces éleveurs, bien sûr, pour prendre la température aussi à la veille de ces municipales. Vous nous avez livré vos attentes dans un petit instant. Jean Viard, je voudrais vous entendre à la fois sur l'avenir aujourd'hui de l'agriculture. On a vu une courbe qui baisse en 30 ans, mais que l'on peut stopper, c'est ce que vous nous disiez. On voit les attentes aussi de Michel, d'Aurore. On voit les générations qui se transforment et le renouvellement aussi qui va avec.
Oui, mais je ferai trois remarques. Je dirais la terre, c'est pas une surface. On a cru à une époque, c'était une surface. Non, il y a un esprit des lieux, il y a des savoirs traditionnels, il y a des cultures. Ce qu'on disait sur les, ça veut pas dire qu'il fallait enlever aucune haie, mais là on a enlevé toutes les. Donc si vous voulez, on a effectivement détruit les territoires. Parce qu'il y a un esprit des lieux, les gens ils sont là depuis longtemps, ils se transmettent des savoirs, ils ne sont pas forcément conscients, ils ne l'explicitent pas forcément, pourquoi un endroit il y a une haie, pourquoi il n'y en a pas, etc. Donc oui, il faut revenir à l'esprit des lieux. Moi je dirais une deuxième chose, c'est qu'en France, l'agriculture est liée directement à l'identité républicaine. et dans une période de crise des identités. C'est pas vrai pour tous les pays, c'est pas vrai en Angleterre, par exemple. Et donc, mais chez nous, c'est fondamental. Et la dernière idée, si vous voulez, on n'a pas beaucoup de temps, mais moi je dirais que quand on a fait la révolution industrielle, on a cru que les paysans, c'était le passé. Et en gros, on disait souvent, oui, on garde le petit dernier pas trop malin pour la ferme. Ce qui était une caricature, mais enfin, on avait cette espèce de discours. Et je crois que la révolution industrielle, on est en train de la dépasser et que la terre est au cœur des sociétés de demain. Mais une terre reprise en main dans une vision écologique et avec le fait que la plupart des gens des villes habitent aussi à côté de la ville. Oui. On est en train de réinventer un territoire et la France est bien placée pour inventer un nouveau modèle. Pour l'instant, on est un peu coincé par la PAC. Mais si vous voulez, je crois que là, il y a un enjeu essentiel parce qu'il faut qu'on puisse garantir à nos enfants qu'en France, dans un siècle, ils pourront se nourrir, ils pourront s'habiller, ils pourront produire de l'énergie, ils pourront respirer. Et donc, tout ça, c'est le monde agricole qui peut le faire. Donc, comment on fait pour que l'agriculture, qui était un passé un peu archaïque, qui produisait des matières premières sur des grandes surfaces, redevienne un cœur du modèle commun? C'est ça l'enjeu qui est en train de se vivre. Ça va prendre du temps, mais c'est un enjeu majeur.
C'est vraiment un changement qui est en train de s'opérer, une sorte de révolution agricole qu'on est en train de vivre d'une certaine manière.
Sociétal, le rapport à la nature change. La nature, c'est plus des cartes. On ne peut plus prendre la nature et la transformer.
Juste un mot, parce qu'on parle évidemment de ce monde qui change. Donc, un mot des nouvelles technologies. Est-ce qu'elles ont de la place dans vos vies, dans vos élevages, dans vos fermes, Jimmy, Aurore et Michel? Est-ce qu'elles peuvent, en tout cas, vous apporter quelque chose? Et est-ce que c'est significatif aujourd'hui?
Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus de précision grâce à la technologie. Aujourd'hui, nos tracteurs sont équipés de GPS. Et oui, bien sûr, certains se conduisent eux-mêmes à 2 cm près. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais bien sûr, ça nous fait avancer, ça nous fait aussi gagner du temps, gagner de la main-d'œuvre, parce qu'on a encore besoin d'hommes sur nos fermes, mais on arrive à remplacer quelques tâches mécaniques ou par le passé qui pouvaient être un peu induites et des contraintes pour nos exploitants qui aujourd'hui sont remplacées ou robotisées. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir des tâches beaucoup moins lourdes que nos parents. Et si ça peut attirer des jeunes dans nos exploitations à venir nous rencontrer, à venir travailler.
Vous y croyez, vous, dans ce renouvellement?
Eh bien, moi, en tout cas, je l'espère de tout cœur. Et avant, on remplaçait une exploitation sur 2. Aujourd'hui, on est à 1 sur 3. Et j'espère pas que ça va continuer de diminuer. Et c'est bien pour ça qu'il faut que nos jeunes viennent dans nos fermes. On est ouvert. On accepte tout le monde en stage. Et il faut venir voir ce que l'on fait pour donner envie et tout simplement, eux aussi changeront notre modèle agricole parce que c'est eux qui le changeront demain en reprenant des fermes. Exactement. Avec leurs idées.
Alors, il y a la technologie, c'est évidemment nécessaire, c'est ce que vous dites, Jimmy, mais il y a aussi le retour finalement, j'allais dire, au circuit court, et c'est ce que vous faites, vous, Michel et Aurore, dans cette ferme de l'Aulne, Michel et Aurore Communier, avec votre épouse également, Michel. Et l'équipe qui travaille avec vous, vous êtes 5 au total, c'est ça?
4 associés, un employé. Voilà.
C'est aussi ça aussi, les avantages du circuit court. Alors j'allais dire, c'est pas à contrario de la technologie, c'est complémentaire, mais c'est aussi vous, comme ça, que vous voyez l'avenir.
Voilà, moi le circuit court, je crois que c'est l'avenir de nos campagnes, des petits agriculteurs comme nous, c'est notre avenir qui en dépend. Je pense qu'il faut faire du circuit court, faut garder des contacts avec nos consommateurs, nos habitants, les plus proches, il faut garder du contact. C'est un minimum. Parce que tout le monde se retrouve dans les supermarchés à pousser son caddie. Il n'y a plus d'intérêt. D'abord, ils savent pas comment que c'est produit. Ils ne savent pas.
Peut-être la limite, pardonnez-moi, je devais poser la question à Aurore, mais peut-être la limite du circuit court, c'est que comme ça fonctionne très bien, voire même ça a énormément de succès, il va y avoir des exploitations forcément plus grandes à un moment parce que la demande sera plus grande, Aurore.
Après, s'il y a plusieurs agriculteurs à le faire, on peut se fournir. Bah, bien sûr, on ne trouve pas tout dans un petit magasin à la ferme. Bien sûr, il n'y a pas des packs d'eau, il n'y a pas le papier toilette, par exemple. Voilà, ça reste un truc tout bête où on est obligé quand même d'aller dans les supermarchés. Mais on peut se permettre d'aller trouver des produits bio ou non bio. Mais les produits bio en circuit court, du coup, sont moins chers parce qu'il y a moins de marge de plusieurs acteurs,
évidemment. Alors voilà, c'était évidemment difficile d'être plus complet, d'être plus en longueur avec vous. Malheureusement, on a passé 2 heures, on aurait pu en passer 6. Merci de votre accueil. En tout cas, merci beaucoup Michel et Aurore Communier de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup Jean Viard. Je rappelle votre livre, Le Sacre de la Terre aux éditions de l'Aube. Jimmy Guérin également. Merci de nous avoir accompagnés ce soir à Langouette en Ille-et-Vilaine. On continue ce tour de France. On vous propose une autre région, une autre situation, un autre zoom la semaine prochaine, lundi prochain. D'abord, place à la musique avec Émilie Mazoyer. Ouais. Concert privé ce soir sur Europe 1, de 20h à 22h. Ah oui, on change complètement d'univers. Émilie Mazoyer qui reçoit Trio, Mademoiselle K et Séverin, rien que ça. Ça, c'est un extrait de Trio, vous aurez reconnu. De nos rivières, de nos...
Et oui, c'est ça sur Europe 1. Le monde qui change. À demain, 18h-20h, à Paris, dans les studios d'Europe 1, pour écouter ensemble le monde changer. Très belle soirée à tous. Merci de votre fidélité.
Belle soirée à tous. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.